je vais vous parler aujourd'hui de l'eau dans le système solaire. Alors, ceux qui ont assisté aux conférences précédentes sur les météorites, je ne parlerai quasiment pas de l'eau dans les météorites, parce que je me rappelle en avoir parlé l'an dernier, mais je parlerai un peu d'eau sur Saturne, un peu d'eau sur Mars, évidemment. Alors, l'eau, tout le monde sait ce que c'est. Il y a plusieurs façons de définir l'eau. L'eau, c'est un liquide qui mouille. On peut dire que l'eau, c'est un liquide si impur qu'une seule goutte suffit à troubler tout un verre de pastis. La meilleure façon de définir l'eau, c'est quand même une molécule de formule H2O, avec un gros atome d'oxygène accroché à deux petits atomes d'hydrogène. Alors, l'eau n'est pas forcément liquide, comme ici, ou ici. Elle peut évidemment être solide. Vous avez ici un iceberg sur la mer. Vous avez une coexistence d'eau liquide et d'eau solide. Il existe évidemment aussi de l'eau vapeur. À côté, j'ai mis trois images d'eau dans le système solaire. Vous avez ici la calotte glaciaire de Mars, qui est de la glace d'eau. Vous avez ici Europe, qui est un satellite de Jupiter, on verra, entièrement recouvert de glace. Et vous avez ici une comète. Les principaux gaz qui échappent d'une comète, c'est de la vapeur d'eau. Et j'en parlerai quasiment pas, mais sous-entendu, sous-jacent au problème de l'eau, il y a évidemment le problème de la vie dans le système solaire. Y a-t-il de la vie ailleurs que sur Terre dans le système solaire? Ne pouvant pas présenter de martien, j'ai mis un poisson, tout ce qu'il y a de plus terrestre. Alors, avant de parler du système solaire, voici une galaxie. Vous savez tous, j'espère, ce que c'est qu'une galaxie. C'est un rassemblement d'à peu près 200 milliards d'étoiles. Ça, c'est pas notre galaxie, mais c'est une galaxie qui ressemble bien à la nôtre. Et si on regardait notre galaxie à nous, tout ce brouillard blanchâtre, c'est des étoiles tellement près les unes des autres, vu de loin que ça paraît un brouillard blanchâtre, mais tellement près les uns des autres, ça a quand même des milliards de milliards de milliards de kilomètres entre chaque étoile. Notre système solaire serait quelque part partout. Alors, on peut analyser la composition chimique d'une galaxie par des méthodes spectrales. Je ne vous dis pas comment on fait, mais voici le résultat. Vous prenez la galaxie précédente, vous la mélangez, vous la touillez, vous prenez un milliard d'atomes au hasard. Si vous avez bien mélangé, c'est représentatif. Et voici la composition chimique d'une galaxie de base. C'est très largement dominé par l'hydrogène, plus de 900 millions d'atomes d'hydrogène. Ce qui vient en deuxième, c'est l'hélium, 88 millions. Vous voyez que ces deux-là, ils font 99,9% des atomes. Et ce qui vient en troisième, c'est l'oxygène. Alors, il est très minoritaire, hein. C'est 1 pour 1000, même pas 1 pour 1000 par rapport à l'hydrogène, mais c'est le troisième. Alors, vous voyez déjà que la molécule d'eau H2O, a priori, elle a toutes les raisons d'être assez fréquente, parce que c'est fait avec le plus abondant et le troisième des éléments de l'univers. Donc, intellectuellement parlant, l'eau doit être très abondante. Alors, tous ces atomes, on les retrouve dans les galaxies, bien entendu, mais dans les nébuleuses, qui sont des nuages de gaz internes à notre galaxie. J'ai mis ici trois photos de nébuleuses. Là encore, je ne vous raconte pas comment on le sait, parce qu'il me faudrait des heures et des heures. Mais on sait que les systèmes solaires en général, le système solaire en particulier, naissent à partir de nébuleuses comme celle-ci ou celle-ci. Et dans ces nébuleuses, on retrouve l'hydrogène en premier, l'hélium en deuxième, l'oxygène en troisième. Donc, la mer à partir de laquelle, la mer M-E-R-E, notre maman à tous, à partir de laquelle le système solaire est né, contenait hydrogène et oxygène en abondance. Alors, ça, j'ai remis les éléments chimiques les plus abondants. J'ai pas mis l'hélium parce qu'il n'a pas de propriété chimique, mais vous voyez que l'hydrogène et l'oxygène étant les deux éléments chimiques les plus abondants parmi ceux qui réagissent, l'hélium n'a aucune affinité chimique, eh bien vous voyez que la molécule la plus abondante, c'est qu'on prend deux hydrogènes pour faire la molécule H2, c'est la molécule numéro 1, mais la molécule numéro 2, c'est qu'on prend deux hydrogènes et un oxygène, on fait H2O, c'est la molécule numéro 2 en abondance. Il y a d'autres molécules qui viennent plus tard, plus loin, méthane, ammoniac, silicate, mais c'est beaucoup plus très minoritaire. Dans l'univers, il y a beaucoup plus d'eau que de cailloux, par exemple. Il faut le savoir. Alors, ça, c'est une nébuleuse qui ressemble à peu près à ce que devait être le système solaire en train de naître. Le centre de cette nébuleuse, ça a donné le Soleil. Le milieu de la nébuleuse a donné ce qu'on appelle le système solaire interne, la Terre, Mars, Vénus, etc. Et l'extérieur de cette nébuleuse a donné le système solaire externe, Jupiter, Saturne, Pluton et tout ça. Alors, nos composés, je vous rappelle les composés qu'on peut faire. On peut faire de l'hydrogène H2, on peut faire de l'eau, on peut faire d'autres molécules, dont des cailloux, par exemple, que j'ai mis ici en rouge. On peut également faire du fer, mais qui vient qu'en molécule numéro 5, le fer. Hein, c'est pas le petit dernier, mais enfin, c'est quand même assez loin dans la famille. Eh bien, toutes ces molécules, sous quelle forme elles sont? Ici, c'est près du futur soleil, il fait très chaud. Quand il fait très chaud, ben, l'eau, elle est gazeuse, etc. Qu'est-ce qui est solide? de solide, il reste que les silicates, les cailloux, et le fer. Ici, vous avez des poussières de silicates et de fer qui vont s'agglomérer pour donner les planètes. La Terre est un agglomérat de poussières de silicates et de fer. À l'opposé, par exemple, c'est tout à fait différent. Il fait très froid, il fait moins 200 degrés, ou voire même plus froid. Donc, bien sûr, l'hydrogène est encore gazeux, mais l'eau, l'ammoniac, les silicates et tout ça sont sous forme solide. L'eau solide s'appelle du givre, de la glace. Et ici, on a des poussières de silicates, d'ammoniac, de fer et d'eau. Et comme l'eau est la molécule la plus abondante, les poussières les plus abondantes sont les poussières d'eau, de givre. Et si on fait une planète dans ce coin-là, on agglomérera tout ce qui est solide, et le corps principal, ça sera de la glace. Et entre les deux, j'ai dit qu'ici fait chaud, là il fait tiède, entre les deux entre chaud et froid, eh bien, on a des poussières solides de silicate et de fer, mais ces poussières silicates solides vont plus ou moins réagir avec l'eau pour donner des silicates hydratés, le fer va un peu rouiller, et on aura donc des poussières solides un peu hydratées, un peu rouillées. Donc voilà, qu'est-ce qu'étaient les poussières dans le système solaire en train de naître? Là, vous avez en 5 schémas le système solaire en train de naître, le futur soleil. Que j'ai mis en gris ici, c'est des poussières surtout silicates et fer, du caillou. Ces poussières grises, en s'accumulant, vont faire le système solaire interne, la Terre, Mercure, Vénus, etc., qui sont en cailloux. À l'extérieur, les poussières, il y a un peu de fer, un peu plus de silicate, mais surtout de la glace. Et ces poussières glacées vont, en s'agglomérant les unes les autres, donner les planètes et les satellites de glace. Et 4 d'entre elles, en plus, vont garder l'hydrogène et l'hélium pour former les planètes géantes. Mais a priori, de la glace, on en a énormément dans le système solaire externe, la glace d'eau. Par contre, dans le système solaire interne, on a surtout des cailloux, choses comme ça. Alors, si je résume tout ça, si ce sont nos planètes qu'on vient de faire comme ça, s'il fait chaud, c'est le cas de la Terre, et que la gravité est suffisante, la gravité retient la vapeur d'eau, l'eau, et comme il fait chaud, l'eau est liquide. Et on a donc une planète avec de l'eau à l'état liquide, c'est par exemple le cas de la Terre. S'il fait à peu près la même température, la moyenne de la température de la Lune, c'est à peu près la même que la température moyenne de la Terre, quelques dizaines de degrés près. Mais la gravité est trop faible. La vapeur d'eau s'échappe de l'atmosphère, et à force de s'échapper de l'atmosphère, et bien progressivement, la Lune perd toute son eau, et il n'y a plus une goutte d'eau sur la Lune, ni solide, ni liquide, ni gazeuse. Donc, il fait assez chaud, mais c'est petit, la gravité a fait tout partir. Par contre, s'il fait froid dans le système solaire externe, les poussières, rappelez-vous, les poussières, elles contiennent au moins 60% de poussière de glace, et bien les 60% d'eau initiaux restent en glace, et vous avez des corps dont la glace est le constituant majoritaire. Vous avez ici un Encelade, un satellite de Saturne. Et bien si ces corps de glace dans le système solaire sont suffisamment gros, plus gros comme plusieurs fois la Terre, ils sont arrivés à retenir l'hydrogène et l'hélium qu'il y avait dans le coin avant que le Soleil les chasse, et des corps plus gros que la Terre, mais en glace dominante, se sont entourés d'un cocon d'hydrogène et d'hélium pour faire les planètes géantes. Jupiter, c'est 300 fois la masse de la Terre. Au milieu, il y a peut-être quelque chose gros comme 10 fois la Terre, qui est en fer, cailloux et glace surtout. Et cette chose grosse comme 10 fois la Terre est entourée de quelque chose gros comme 290 fois la Terre, d'hydrogène et d'hélium, et ça fait des planètes géantes. Donc voici un peu un panorama de la formation du système solaire. Alors maintenant, ce qu'on va faire, on va visiter toutes les planètes les unes après les autres pour voir s'il y a de l'eau, comment elle est, sous quelle forme, si elle est potable, chaude, froide, etc. Alors, c'est la seule diapo que je vais montrer de la Terre pour montrer que sur Terre, l'eau existe dans 3 sites principaux. Le principal auquel tout le monde pense, évidemment, c'est l'océan. Bien sûr, elle est salée, mais enfin, c'est quand même de l'eau. L'océan contient à peu près 10 puissance 21 kg d'eau. Alors pour ceux qui ne connaissent pas la notion de 10 puissance 21, ça veut dire qu'il y a 21 zéros derrière un 1. Donc 10 puissance 21 kg d'eau dans l'océan. C'est pas beaucoup, c'est 1 pour 1000 de la Terre. Le deuxième endroit où il y a de l'eau, c'est à peu près autant. C'est dans l'intérieur de la Terre, dans les roches profondes, qu'on appelle le manteau. Il y en a à peu près autant, 10 puissance 21 kg. Ça se voit, quand une éruption volcanique a lieu, il y a beaucoup de fumée. Et dans la fumée, une bonne part de la fumée, en fait, c'est de la vapeur d'eau qui s'échappe. Le troisième réservoir, qui est quand même 100 fois plus petit que l'océan, c'est les glaciers, qui sont essentiellement concentrés en Antarctique et au Groenland. Et j'ai mis ici une photo de glacier pour rappeler qu'il y a quand même 10 puissance 19, c'est-à-dire avec 19 zéros, kilos d'eau sous forme de glace. Alors, à côté de la Terre, il y a la Lune. Y a-t-il de l'eau sur la Lune? La réponse est, il n'y en a pas. Pourquoi il n'y en a pas? Il n'y a pas l'atmosphère, c'est le vide. Le jour, il fait 120 degrés. Si vous mettez de l'eau à 120 degrés, évidemment, elle s'évapore tout de suite. Et dans le vide, elle s'évapore très vite. Et l'eau, si vous renversez de l'eau sur la Lune en plein jour, elle boue, s'évapore et la vapeur s'en va parce que la gravité n'est pas suffisante. Donc même s'il y avait de l'eau, la journée qui dure 15 jours suffirait à faire tout évaporer. S'il en restait un petit peu, il fait moins 150 la nuit, et donc effectivement le peu qui resterait, la nuit gèlerait, mais dès le jour suivant, le peu qui resterait s'évaporerait et quitterait la Lune. Il n'y a pas d'eau sur la Lune, c'est un paysage totalement désertique qui est bien connu grâce aux missions Apollo. Alors il n'y a pas d'eau sur la Lune, encore que un auteur célèbre, Hergé pour ne pas le nommer, mettait de l'eau sur la Lune, dans une grotte en l'occurrence, et il mettait de l'eau de deux façons. D'abord avec de la glace, avec toute une histoire, Tintin qui descend, qui patine, etc. Donc il y a de la glace et qu'il y a de l'eau. Et même le capitaine Haddock et Tintin, qui sont quand même des gens très bien, voient dans la grotte des stalactites et des stalagmites, et Tintin dit, voici la preuve qu'à certaines époques, il y a eu de l'eau sur la Lune. Donc en 52, quand a été écrit « On a marché sur la Lune », Hergé disait qu'il était possible qu'il y ait eu de l'eau sur la Lune. Alors Hergé s'est trompé deux fois. D'abord parce que des stalactites et des stalagmites, c'est pas du tout la preuve qu'il y a eu de l'eau. On peut faire des stalactites et des stalagmites sans eau. Et je vous le prouve, en montrant une grotte qui est dans du basalte, c'est à l'intérieur d'une coulée de lave, où il y a plein de stalactites qui pendouillent au plafond, regardez, des beaux stalactites, et ces stalactites sont en basalte, ils ne sont absolument pas dus à des concrétions de calcaire comme les stalactites ordinaires. Donc on peut faire des stalactites et des stalagmites sans eau, ce qu'Hergé manifestement ne savait pas. Première erreur. Deuxième erreur, Hergé donc met de la glace dans sa grotte parce qu'il s'est dit, dans une grotte il n'y a jamais le soleil, donc c'est l'ombre, et à l'ombre, sur la Lune, il fait moins 150, c'est comme la nuit. Et à moins 150, il y a de la glace. Donc Hergé a mis de la glace dans sa grotte, puisqu'il se dit, c'est l'ombre, il fait froid. Fatale erreur. Voici un paysage que n'importe quel saumurois connaît très bien. Quelle est la température dans une cave profonde, dans une grotte, de Saumur? C'est entre 12 et 15 degrés. Pourquoi est-ce que c'est entre 12 et 15 degrés? C'est parce que c'est les roches étant des isolants, il y a une grande inertie thermique. Dans une cave assez profonde, on a la moyenne été, hiver, jour, nuit. Si vous enregistrez la température dans une maison de Saumur tout au long de l'année, où il y aura une moyenne entre, ça dépend des années, 12 à 15 degrés, et en profondeur ici, la moyenne est ça. Alors ça, c'est une des raisons que j'ai, en rigolant bien entendu, de dire que Dieu aime particulièrement la France. Il y a deux preuves que Dieu aime la France. D'abord Jeanne d'Arc, qui montre que Dieu préfère la France aux Anglais, j'espère qu'il sera encore de cet avis ce soir. Bon. Et puis deuxièmement, pour qu'il y ait du bon vin, et Dieu aime le vin, prenez, buvez, etc., etc., Dieu aime le vin, pour qu'il y ait du bon vin, il faut qu'il vieillisse assez longtemps dans une température justement de 12 à 14 degrés. Si vous êtes au Gabon ou au Sénégal, en vous enterrant, la moyenne sera plutôt 20-25 degrés, et le vin vieillira trop vite, il ne vieillira pas. Vous êtes à Oslo, il fera 5 degrés et ça ne passera pas. Il y a donc sur Terre deux ceintures de latitude. Je parle avant l'invention des frigidaires, maintenant on peut faire du vin partout parce qu'on climatise. Mais avant l'invention des climatiseurs, des frigidaires et des réchauffeurs, on ne pouvait faire du bon vin que dans deux bandes latitudinales restreintes, une dans l'hémisphère sud, une dans l'hémisphère nord. Et la France est en plein milieu de cette bande de l'hémisphère nord. Preuve avec Jeanne d'Arc que Dieu aime bien la France. Donc la température dans une grotte, c'est la moyenne annuelle jour-nuit. Dans une grotte lunaire, la température, c'est la moyenne annuelle. En gros, c'est 120 degrés le jour, moins 150 la nuit, sur 2, ça fait moins 15. Donc ça, c'est la température moyenne de la Lune. Eh bien, si vous mettez de la glace dans le vide à moins 15 degrés, elle disparaît très vite. On dit se sublimer. Vous connaissez peut-être la glace carbonique. La glace carbonique, il y a des gens qui s'en servent, les marchands de glace en particulier, l'été, dans leur glacière. Ils mettent une espèce de glace qui est blanche, et qui ne fond pas, elle s'évapore. Donc il n'y a pas de jus qui traîne au fond de la glacière, et ça maintient le froid, simplement du gaz carbonique gelé. Et si vous mettez du gaz carbonique gelé sur la table, eh bien, il s'évapore sans fondre, et tout ça disparaît. Eh bien, de la glace dans le vide, à moins 15 degrés, se sublime, comme ça, doucement. Mais doucement, c'est-à-dire qu'en quelques siècles, on aurait enlevé quelques mètres de glace. On va dire qu'on enlèverait un mètre de glace par siècle. Donc dans la grotte, je ne sais pas combien il y a, mettons qu'il y ait 20 mètres de glace, c'est déjà beaucoup, en 20 siècles, on aurait enlevé la glace. Donc il ne peut pas y avoir de glace dans une grotte lunaire, deuxième erreur d'Hergé. Mais est-ce qu'il ne peut pas vraiment y avoir quand même un petit peu de glace sur la Lune? Il y a quelques endroits sur la Lune où il fait vraiment très froid, c'est-à-dire où il n'y a jamais le soleil. Donc c'est toujours moins 150 degrés, même un peu moins, c'est au pôle, dans les cratères. Au pôle, au fond des cratères, le soleil arrive toujours de façon horizontale et le soleil n'éclaire jamais le fond des cratères. Donc au fond des cratères, il y a des endroits, au pôle nord, où il fait moins 150 à moins 200 en permanence. Et là, la glace, si on en met, elle se sublime beaucoup plus lentement. Ce n'est pas un mètre par siècle, c'est un mètre tous les 2 à 3 milliards d'années. Donc si on en a mis, elle va rester longtemps. Alors, quelqu'un a-t-il mis de la glace dans les cratères polaires? Le problème, c'est qu'on ne peut pas regarder pour savoir si c'est blanc, puisqu'ils sont toujours dans le noir. Et même si on passe au-dessus, ben, on voit un fond de cratère noir, comment voir s'il y a de la glace, certes blanche, mais dans le noir? Alors là, je vous montre la bataille d'un film qui s'appelle « La bataille de l'eau lourde ». Certains ont peut-être vu ce film, c'est un film qui se passe pendant la dernière guerre mondiale. Les Allemands veulent faire une bombe atomique. Pour faire une bombe atomique, il faut de l'eau lourde. Il n'y a que les Norvégiens qui ont de l'eau lourde, et les Anglais vont aller faire sauter l'usine norvégienne qui fait de l'eau lourde. Pourquoi est-ce qu'il faut, il fallait en tout cas à l'époque, de l'eau lourde pour faire une bombe atomique? C'est que l'eau lourde ralentit les neutrons. C'est ça la propriété recherchée. Or, la Lune reçoit des rayons cosmiques, ce que ne fait pas la Terre, parce que la Terre, on a un champ magnétique qui nous protège. Sur la Lune, il n'y a pas de champ magnétique. Donc la Lune reçoit des rayons cosmiques. Ces rayons cosmiques arrivent au sol et font des réactions nucléaires. Ces réactions nucléaires fabriquent des neutrons. S'il y a du deutérium, c'est-à-dire l'hydrogène lourd de l'eau lourde, dans le sol, ces neutrons seront ralentis, ce que cherchaient à faire les Allemands. Et ce que cherchaient les Anglais, ce que les Allemands ne fassent pas. Eh bien, s'il y a des neutrons qui sont ralentis, on verra qu'il y a du deutérium, donc de l'eau. Alors, il n'y a plus qu'à mesurer la vitesse des neutrons émis par les cratères polaires. S'ils vont lentement, il y a du deutérium, donc de la glace. S'ils vont vite, il n'y en a pas. Alors, les Américains ont mis un satellite en orbite autour de la Lune qui passe deux fois par orbite au-dessus du pôle Nord et puis à demi-tour après au-dessus du pôle Sud. Et ils mesurent la vitesse des neutrons qui sort de la Lune. Alors, ça, c'est l'énergie plus que la vitesse. Et vous voyez que ça oscille, grosso modo, entre 600 et 620. Je ne sais pas quelle est l'énergie ici, mais ça n'a aucune importance. Ça fait un peu n'importe quoi, mais systématiquement, au niveau du pôle Nord et au niveau du pôle Sud, ça ralentit. Là, il y a plusieurs orbites, mais systématiquement, au niveau du pôle Nord et du pôle Sud, il y a quelque chose. Il y a quelque chose qui ralentit les neutrons au niveau des pôles. Donc, c'est quelque chose de riche en hydrogène. Donc, on peut toujours dire que c'est de la crème chantilly, qui est effectivement riche en hydrogène. Mais l'eau est quand même la molécule riche en hydrogène la plus abondante. Alors voilà par exemple une photo du pôle sud de la Lune. Alors si on prenait une seule photo du pôle sud, il y a la moitié de la photo qui serait dans la nuit, le pôle sud est juste là, et la moitié qui serait dans le jour. Il suffit d'attendre une demi-journée lunaire, et puis c'est l'autre moitié qui est dans le jour et l'autre moitié qui est dans la nuit. Donc en prenant plusieurs photos du pôle sud de la Lune, à plusieurs fractions de journée lunaire d'intervalle, on a éclairé partout le pôle sud. Sauf au niveau du pôle sud, où il y a des cratères, en particulier un gros trou noir. C'est un cratère qui est en permanence dans le noir. Et si on regarde où sont les neutrons ralentis, voici donc la carte, exactement la même projection, les taches violettes montrent là où il y a des neutrons ralentis, et vous voyez que ça correspond à la grosse tache noire qui est là. Il y a donc des neutrons qui sont ralentis au niveau des cratères polaires, très probablement il y a de l'hydrogène, très probablement de la glace d'eau, ou de la crème chantilly, je vous laisse choisir. Donc finalement, il y a sans doute de la glace sur la Lune. Alors d'où elle viendrait, cette glace? Eh bien, on va le voir tout à l'heure, mais les météorites, certaines sont riches en eau. Les comètes sont très riches en eau, elles font 60% d'eau. Si vous avez une comète, par exemple, qui tombe sur la Lune, si elle tombe sur la Lune la nuit, toute l'eau de la comète est vaporisée par la chaleur de l'explosion, quand la Lune tombe, mais comme il fait moins 150 à moins 200 degrés, cette vapeur dans le froid se condense et la Lune doit être, l'endroit où est tombée la comète doit se couvrir de givre. Et dès que le soleil se lève, ce givre disparaît, c'est sublime. Sauf s'il y a du givre qui tombe dans les cratères polaires au fond. Et là, le givre, il serait en permanence. Et à chaque fois qu'une comète tombe pas trop loin du pôle Nord ou du pôle Sud, elle dépose une petite couche de givre, une petite couche de givre, après petite couche de givre, il y aurait peut-être de grosses quantités de glace dans ces cratères polaires. Donc, il y a de l'eau sur la Lune, mais pas là où Hergé l'avait dit.
Alors, sur Mercure, on pourrait se demander si on n'a pas un dispositif analogue. Effectivement, sur Mercure, bien sûr, il fait 450 le jour. Il fait à peu près moins 150 à moins 200 la nuit. Et il y a aussi des cratères polaires, comme on voit sur l'image du bas. Et on peut se demander si les comètes ou mes chondrites carbonées n'auraient pas amené pareil de l'eau. Mais comment voir s'il y a de l'eau dans les cratères polaires de Mercure? Car aucune sonde n'a jamais survolé avec un détecteur de neutrons les cratères polaires de Mercure. Mais heureusement, l'orbite de Mercure est inclinée sur l'écliptique et on peut voir les pôles de Mercure depuis la Terre. Et avec un radar, si on envoie un faisceau radar sur Mercure, On réfléchit, on voit un point brillant à peu près au milieu de Mercure, c'est normal, c'est comme quand on regarde une boule bien brillante, on voit un point brillant, c'est la réflexion, mais on voit également une tache bien brillante au pôle sud, et si on détaille la latitude et la longitude de cette tache bien brillante au pôle sud, on s'aperçoit que ça correspond justement à un cratère qui a un nom chinois dont je ne me rappelle plus le nom. Donc, comme la glace réfléchit très bien les ondes radar, on peut proposer que ce cratère à nom chinois contient de la glace exactement comme les cratères lunaires. Donc, il y aurait de la glace sur la Lune et sur Mercure.
Alors, après la Lune et Mercure, il y a Vénus. Alors, Vénus, je ne peux pas vous montrer de très belles photos parce que c'est entièrement recouvert de nuages. Voici une photo de Vénus vue de l'extérieur. Des nuages, un jaune paille, jaune pipi, pas bien beau. Et alors, ces nuages, ils sont terribles. Ils sont à peu près à 60 km d'altitude. Et ils sont faits essentiellement d'acide sulfurique. Un nuage terrestre, c'est des petites gouttelettes d'eau. Un nuage vénérien, c'est des petites gouttelettes d'acide sulfurique. Au sol, la température est affreuse, 450 degrés. Ça fait 725 degrés K. Et la pression est de 90 atmosphères. Donc, à peu près ce qui règne à 900 mètres de profondeur sous l'eau. Vous imaginez bien qu'avec une pression pareille et une température pareille, il n'y a certainement pas d'eau liquide à la surface de Vénus. Alors, si on regarde la composition de l'atmosphère de Vénus, qui est très épaisse, il y a 90 fois plus d'atmosphère autour de Vénus qu'autour de la Terre. Cette atmosphère très épaisse, c'est essentiellement du gaz carbonique, qui fait un effet de serre terrible, et c'est justement pour ça qu'il fait 450 degrés sur Vénus. Parce qu'avec tout ce gaz carbonique, l'effet de serre est monstrueux, et il fait 450 degrés. L'azote fait 3,5%, et le reste fait 3 fois rien. Et dans le reste, qu'est-ce qu'on a? On a de l'oxyde de soufre, de l'argon, et un petit peu de vapeur d'eau. Alors la vapeur d'eau, c'est pas grand-chose, hein, dans l'atmosphère, ça serait 0,002%. On dirait l'augmentation de salaire des fonctionnaires accordée tous les 10 ans à peu près. C'est ridicule, ça compte pas. Si toute cette eau qui est dans l'atmosphère se condensait, ça ferait une couche d'eau à la surface de Vénus d'à peu près 1 cm d'épaisseur. C'est vraiment pas grand-chose. Alors d'ailleurs, quand on regarde la surface de Vénus, alors c'est pas une photo, c'est une image radar. Parce que personne n'a jamais vu la surface de Vénus, il n'y a que les radars qui peuvent voir à travers les nuages. Et voici donc une image radar de Vénus, c'est un beau champ de volcan, mais il n'y a pas évidemment une goutte d'eau. Alors cette eau, il a dû y en avoir au début, mais elle a été détruite par les ultraviolets solaires très forts, a été cassée, l'oxygène a peut-être sans doute rouillé le sol de Vénus, c'est pour ça que le sol de Vénus est totalement rouge, mais il n'y a quasiment plus d'eau sur Vénus. Donc ce n'est pas sur Vénus qu'il faut aller chercher de l'eau. Alors on a vu la Terre un petit peu, la Lune, il y a peut-être de la glace dans les pôles, Mercure c'est pareil, Vénus, il n'y a vraiment pas grand-chose. On va dire, cette conférence sur l'eau dans le système solaire, si c'est pour dire qu'il n'y a jamais rien, on va aller voir le rugby. Là, on arrive à l'eau intéressante, parce qu'à partir d'ici, il y en a. Alors, Mars, je vous rappelle la température de Mars, c'est à peu près moins 50 degrés. Alors, ça fait peut-être moins 20 en plein été. Sur les pentes, en plein soleil, en plein sud, en plein midi, ça frise les 0 degrés. Par contre, au pôle, en plein hiver, il peut faire moins 80, moins 90 sans problème. Alors la pression atmosphérique est faible, il y a de l'atmosphère sur Mars, mais la pression atmosphérique c'est 0,6% de celle de la Terre. Avec ces conditions, moins 50, 0,6% de la pression atmosphérique, c'est à peu près ce qui régnerait sur Terre, sur une montagne de 50 km d'altitude. Déjà, si vous montez sur l'Himalaya, il fait froid, il n'y a plus qu'un quart de l'atmosphère, c'est pour ça que les gens sont obligés de mettre des masques à oxygène, vous imaginez à 50 km. Mais c'est à peu près ça qui règne sur Mars. Alors, sur Mars, il y a de l'eau, et on le sait depuis très longtemps. C'est Cassini, en 1666, qui découvre sur Mars des calottes polaires. Ça, c'est la calotte polaire nord, sud plutôt, puisqu'elle est en haut et que les astronomes raisonnent toujours à l'envers. Donc, c'est la calotte polaire sud. Et pour Cassini, en 1666, qui voit quelque chose de blanc au pôle sud d'une planète, il dit que c'est de la glace. D'autant plus que c'est grand l'hiver, c'est petit l'été. Donc, une couche de neige ou de glace qui grandit l'hiver, qui rapetisse l'été. Donc, depuis cette époque-là, on sait qu'il y a de l'eau sur Mars sous forme de glace. On en a la preuve spectrale en étudiant la lumière du soleil réfléchie par ces calottes en 1964. Depuis 1964, on sait qu'il y a de la glace d'eau sur Mars. C'est plus un problème. Alors, des fois, on entend toujours les journalistes qui disent n'importe quoi. Excusez, j'ai fait un pléonasme. Les journalistes qui disent, on va enfin savoir s'il y a de l'eau sur Mars. On le sait depuis 1666, règne de Louis XIV, et on en est sûr depuis 1964, sous la présidence de Charles de Gaulle. Tout ça, c'est quand même pas de toute première fraîcheur. Alors, où est-ce qu'on trouve de l'eau sur Mars? Partout. Alors, je vous ai montré la calotte polaire nord vue par Cassini, hein, c'est avec les télescopes de l'époque. Mais maintenant, quand on tourne autour, on voit cette calotte polaire nord avec un luxe de détails. Cette calotte polaire a le volume de la taille du Groenland. Hein, c'est-à-dire que si ça fondait, tout simplement ça recouvrait la surface de masse de 40 mètres d'eau. Rien qu'en faisant fondre cette calotte-là. C'est déjà pas mal. De l'eau, il y en a dans l'atmosphère. Il y a des nuages, il y a des dépressions, et là vous avez le sol de Mars avec une dépression. Ce n'est pas une photo de la météo nationale le soir, avec une dépression centrée sur la Bretagne. C'est également un pléonasme, une dépression centrée là où elle est d'habitude. Donc, des fois, elle est chez les Anglais, il est vrai. Mais donc, il y a des dépressions sur Mars avec des nuages exactement comme sur la Terre. Il y en a dans le sous-sol. Il doit y en avoir des réserves énormes dans le sous-sol. Le sous-sol doit être plein de glace. Et quand il y a une cratère de météorite qui tombe sur la Lune, ça doit faire boum avec des cratères. Quand une météorite tombe sur la Lune, ça fait plutôt splutch que boum. Parce que la chaleur de l'impact fait fondre la glace et le cratère est entouré de cette espèce de couche de boue. Vous pouvez faire la même chose si vous prenez une jatte de crème, une crème anglaise, et vous jetez un pruneau dedans. Et vous regardez la forme que font les trucs autour du point d'impact du pruneau. Quand j'étais petit, je faisais ça souvent, c'était avec ma petite sœur, quand on jouait dans les champs avec des bousses de vache, on jetait un caillou dans une bouse de vache, à côté de la petite sœur, et ça faisait ça. Alors, cette eau qui est dans le sol a permis des glissements de terrain, et vous avez ici deux glissements de terrain dans une vallée de Mars. Il y en a un qui est venu du nord, un qui est venu du sud. Alors, s'il y a des gens qui font des sciences de la Terre dans cette histoire, on peut voir que celui qui est venu du sud est plus vieux, parce qu'il se fait recouvrir par celui qui est venu du nord, principe de superposition, qui est un des principes de base de la géologie. Alors, cette eau a coulé dans un passé lointain sur Mars, vers 3 milliards d'années, il devait pleuvoir sur Mars, parce qu'il y a des rivières, des petites vallées qui se rejoignent pour faire des moyennes vallées, les moyennes vallées se rejoignent pour faire des grandes rivières. Ces grandes rivières ont des confluents, des méandres, etc. Il y a tout un système hydrologique sur Mars, mais vieux, 3,8 milliards d'années, qui prouve qu'il pleuvait, il y avait des sources et tout ça sur Mars à cette époque-là. Un peu plus récemment, vers 3,5 milliards d'années, ce n'est pas des petites rivières un peu partout, c'est des grandes débâcles. Vous voyez l'embouchure d'ici d'une rivière qui fait à peu près 100 km d'embouchure, c'est plusieurs fois la largeur de l'Amazone, avec un gigantesque delta et des îles. Et là, c'est probablement pas qu'il pleuvait, mais c'est qu'il y avait des gros paquets de glace dans le sol ou ailleurs, et peut-être des éruptions volcaniques qui ont fait fondre la glace, et ça a fait des débâcles qui ont fait ces grands réseaux hydrographiques assez catastrophiques. Ça ne devait pas durer très longtemps, mais quand ça coulait. Alors cette eau, à force de couler, finalement, elle arrivait dans des points bas, elle faisait des lacs ou des mers, et dans ces lacs ou des mers, elle a déposé des couches avec des strates sédimentaires. Voici un grand trou qui, en son temps, a dû être plein d'eau. Et si on regarde un détail dans ce trou, on voit effectivement des couches avec des sédiments. On dirait une vue aérienne de l'Arizona avec des couches bien horizontales, comme Monument Valley avec des Indiens, des cow-boys, des westerns qui sont à l'aide. Alors, actuellement, je vous ai dit, la pression sur Mars est de 6 hectopascales, 6 pour 1000 de la pression terrestre. Sur Terre, elle est de 1013 hectopascales, là, 6 hectopascales. À cette pression-là, l'eau ne peut pas être liquide. Si on prend de la glace très froide et qu'on la chauffe, elle devient directement de la vapeur, ce qu'on appelle la sublimation. Pour que de l'eau liquide existe, il faut qu'on soit à une pression qui est supérieure à la pression martienne. Donc aujourd'hui, il ne peut pas y avoir de l'eau liquide en équilibre sur Mars. Imaginez-vous que j'arrive sur Mars, je rappelle qu'il fait à peu près moins 50 degrés, j'ai une bouteille thermos avec de l'eau tiède et pressurisée. Je l'ouvre et je la renverse sur Mars, cette eau tiède qui est à 20 degrés. Qu'est-ce qu'elle va faire? Eh bien, elle va à la fois bouillir et geler à la fois. Quand la pression est basse, on bout à une température beaucoup plus basse. Au niveau de la mer, on bout à 100 degrés. Si vous montez au sommet du Mont Blanc, à 4800 mètres d'altitude, l'eau bourra qu'à 85 degrés déjà. Et si vous allez sur Mars, si vous allez à quelques dizaines de fois la pression atmosphérique, l'eau bourra à 0 degré. Et sur Mars, l'eau bout tout de suite. Vous jetez de l'eau, l'eau bout. Mais comme il fait moins 50 degrés, vous avez donc de l'eau qui sort à 20 degrés. Elle se refroidit très vite. Évidemment, il fait moins 50 dehors. Tant qu'elle est entre 20 et 0 degré, elle bout. Dès qu'elle atteint 0 degré, elle gèle. Donc, il ne pourra pas y avoir d'eau liquide sur Mars. Et pourtant, il y en a eu. Alors, il y a deux grandes questions qu'on se pose en ce début du XXIe siècle. D'abord, depuis quand il n'y a plus d'eau liquide sur Mars en surface? Maintenant, il n'y en a pas. Depuis quand? Et deuxième question, cette eau liquide, on est sûr qu'elle a coulé. J'ai parlé de rivières de pluie. Est-ce que c'était de l'eau tranquille? De l'eau tranquille, c'est par exemple la Loire. C'est la pluie sur le Massif central, les petites sources et tout ça. Ou est-ce que c'était de l'eau catastrophique? J'ai parlé d'une éruption volcanique sous un glacier. Ça, c'est en Islande. Vous avez l'éruption du Grímsvötn, sur le Vatnajökull, c'est des noms islandais, je ne prononce pas très bien. Il est évident qu'une éruption volcanique sur un glacier, ça fait fondre les glaciers et ça peut faire des débâcles. Donc, il y a certainement eu les deux sur Mars, eau liquide tranquille ou pérenne ou liquide de débâcle. Qui était la première, qui était la deuxième, etc. Donc, c'est une grande question. Sous-entendu, s'il y a eu de l'eau liquide suffisamment longtemps, peut-être que de la vie a pu se développer. On a toujours derrière notre tête, sous-jacent, la question de la vie possible passée sur Mars. Alors, c'est pour commencer à répondre à ces questions qu'il y a au moins 7 sondes spatiales, dont une européenne, qui a été envoyée depuis 10 ans autour de Mars. Entre parenthèses, on peut faire un peu de politique quand même, au sens noble, hein, affaire de la cité. 7 sondes, 6 américaines, une européenne, alors que l'Europe et l'Amérique ont à peu près le même produit national brut. Ça vous montre l'importance que l'Europe d'un côté et l'Amérique de l'autre donnent à la science. Et après, il ne faut pas s'étonner que 90% des brevets, donc des royalties, soient américains, seulement 10% d'européens. On a ce qu'on mérite. Hein. Et là, ce chiffre est 7 pour 1. C'est caractéristique. Alors, avec ces sondes, sur ces 7 sondes, il y a 2 robots et 5 sondes en orbite. Avec les sondes en orbite, qu'est-ce qu'on a pu voir? Eh bien, on a pu voir, mais bien mieux qu'avant, on avait déjà de très bonnes photos de Mars qui datait de 76, ce qui fait déjà 30 ans, 31 ans même. On avait des belles photos, mais avec des sondes actuelles, on a des photos bien meilleures. Voici par exemple un volcan. Ce n'est pas n'importe quel volcan, c'est le plus gros volcan du système solaire, 600 km de diamètre, 26 km de haut, c'est un beau volcan. Le pied de ce volcan, c'est une grande falaise qui fait 3-4 km de haut. Et si on regarde un détail de ces falaises, on voit des paysages de ce genre-là. Et si on regarde bien ces détails de paysage, voilà le paysage qu'on voit au flanc de cette falaise de volcan martien. Comparé avec ce qu'on appelle un glacier rocheux, c'est-à-dire un glacier avec beaucoup de cailloux en Antarctique, avouez que ça se ressemble beaucoup. Ça veut dire qu'il n'y a pas longtemps, il y avait un glacier qui a coulé sur Mars. Probablement que la glace a disparu, c'est sublimé, mais il reste tous les cailloux qui ont cette forme caractéristique de moraine. Je vous montre un autre confluent de glaciers martiens. Ce n'est pas sans rappeler des glaciers terrestres. Alors, ces deux glaciers que je vous ai montrés, celui-là et celui-là, ils sont dans la région équatoriale. Pourquoi est-ce qu'il y aurait eu, il n'y a pas très longtemps, des glaciers dans la région équatoriale? Actuellement, des glaciers, il y en a, mais ils sont au nord. Pôle nord, car le polaire nord, car le polaire sud. Pourquoi mettre des glaciers à l'équateur? C'est parce que l'axe de rotation de Mars, qui est incliné actuellement de 24 degrés par rapport à l'écliptique, fait n'importe quoi. Sur la Terre, c'est toujours 23 degrés, plus ou moins 2. Ça va être 22, 25, ça ne bouge pas. Sur Mars, ça peut aller de 0 à 90. Ça fait n'importe quoi. Et comme ça peut aller de 0 à 90, quand c'est presque 90, c'est-à-dire que Mars monte un côté toujours au Soleil. Où est-ce qu'en moyenne il fait le plus froid quand Mars est très incliné? Eh bien, c'est à l'équateur qu'il fait le plus froid. Et où est-ce qu'à l'équateur il fait le plus froid? C'est sur les montagnes équatoriales. Eh bien, les deux photos de glaciers que je vous ai montrées, il y en a une qui vient de là et une qui vient de là, c'est justement des montagnes équatoriales. Quand Mars est incliné de cette façon-là, la glace, l'été, quitte le pôle sud, le pôle nord pour aller par là. Un an plus tard, c'est ce pôle-là qui est éclairé au soleil. Et en moyenne, c'est l'équateur qui est le plus froid. Donc la glace des pôles s'évapore et neige ou givre sur les montagnes équatoriales qui se recouvrent de glace. Et puis quand ça rebascule, comme c'est le cas actuellement, les glaciers équatoriaux se subliment, disparaissent et la glace se redépose au pôle. Donc voilà ce qui a dû arriver, ce qui arrive régulièrement sur Mars. Et la dernière fois que Mars était dans cette situation-là, c'est pas il n'y a pas longtemps, ça fait 10 millions d'années. 10 millions d'années, pour un géologue, c'est très récent. 10 millions d'années, c'est à peine plus vieux que le premier homme. Le premier homme, Touma, il y a 7 millions d'années. Donc 10 millions d'années, c'est presque... c'était déjà l'époque où il y avait des singes qui commençaient déjà très sérieusement à ressembler à l'homme. Donc c'est vraiment pas vieux et ça peut recommencer... Je dirais pas demain, parce que ça se fait pas en une seconde, mais il se peut très bien que dans 2 millions d'années, ça recommence et qu'on ait de nouveau des glaciers à l'équateur. Alors, je vais à une autre région, c'est une région qu'on appelle les fossés de Cerbère. C'est des grandes crevasses volcaniques dans lesquelles est sortie plein de lave. Mais le sol de Mars est plein d'eau gelée, et la lave qui est sortie dans cette eau gelée a fait fondre la glace. Il y a de gigantesques rivières qui sont sorties en même temps. Là, vous avez un détail du lit de cette rivière. Et cette rivière se sont ensuite étalées dans le désert que vous avez par là, donc un peu comme les fleuves africains qui vont s'étaler dans le delta du Wakabongo, dans le lac Tchad. Si on regarde en détail qu'est-ce qu'il y a dans ce carré, eh bien voilà ce qu'on voit. On voit quelque chose qui n'est pas sans rappeler. Là. Donc ça c'est sur la Terre, ça c'est sur Mars. Ça veut dire qu'une éruption volcanique, il y a quelques dizaines de millions d'années, a transformé toute cette région en un lac gelé, où devait y avoir des packs d'icebergs et tout ça. Il n'y avait pas de bateau, je vous l'accorde. Mais à part ça, ça devait ressembler. Maintenant, la glace a disparu, a été sublimée. Mais probablement qu'il n'y a pas très longtemps, quelques dizaines de millions d'années, il y avait des lacs sur Mars. Avec, entre les glaçons, forcément, de l'eau liquide. Alors voici une photo assez exceptionnelle. C'est un lac, un vrai, qui n'est pas du tout un paléolac. C'est dans un cratère qui fait 40 km de diamètre. Vous avez le fond du cratère qui est occupé par un lac gelé. Les flancs nord de la montagne sont recouverts de givre, d'ailleurs. Il a neigé ou givré sur le flanc nord de la montagne. Donc un lac, évidemment, gelé. Alors ça, c'est une découverte qui a été faite il y a une dizaine d'années et qui était très, très intrigante. Ça s'appelle des gullies, ça veut simplement dire rigole, ravine en anglais. C'est sur des pentes, et des pentes exposées au soleil, c'est-à-dire des versants nord dans l'hémisphère sud, des versants sud dans l'hémisphère nord. Des pentes exposées au soleil, qui sont pas très grandes, vous voyez, à 100 mètres de là, donc cette pente fait 300-400 mètres, hein, c'est pas les Alpes, hein, c'est une petite pente. Et il y a des petites rigoles, des petites ravines, qui dévalent de cette pente exposée au soleil. Alors il y en a là, je vous en montre d'autres ici. Et ces ravines sont toutes jeunes. On sait qu'elles sont toutes jeunes parce que, par exemple, là, vous avez des dunes et vous avez cette ravine qui recoupe les dunes. C'est-à-dire que le liquide qui a coulé pour faire ça, ça s'est fait après la dernière tempête. Parce que sinon, les dunes recouvriraient. Donc, c'est, mettons, des grandes tempêtes sur Mars, les très très grandes, il y en a peut-être une par siècle, ça se serait fait il n'y a vraiment pas longtemps. Donc ça a vraiment fait couler beaucoup, beaucoup d'encre. Je rappelle que l'eau liquide ne peut pas exister sur Mars. Si je renverse ma bouteille, elle boue et elle gèle à la fois. Vous me direz que si je renverse ma bouteille ici, si je mets beaucoup d'eau, l'eau coule tant qu'elle n'a pas atteint les 0 degrés. Mais elle coule en bouillant et elle s'évapore. Or, ces machins-là, c'est tout petit. Regardez, les petites rivières, ça disparaît. Donc il y a bien quelque chose qui a fait disparaître le liquide qui a creusé ces vallées. Ce n'est pas un grand fleuve, c'est un petit machin de rien du tout. Donc ça irait avec de l'eau qui sort. Si Dieu ouvre le robinet ici, hop, l'eau coule, mais comme elle boue et elle gèle à la fois, ça s'arrête. Alors, comment peut-on expliquer ça? Imaginez qu'on ait des reins pleins de glace. En profondeur, il y a de la pression. Donc, s'il y a de la pression, l'eau pourrait être liquide s'il faisait assez chaud. Ce qui empêche à l'eau d'être liquide sur Mars, c'est deux choses, c'est la température et la très faible pression. Mais si vous êtes sous un certain nombre de mètres de roches, vous avez les roches qui vous appuient dessus, ça fait de la pression. Donc là, l'eau, la glace, si on la chauffait, elle pourrait être liquide. Alors, il faudrait la chauffer à 0 degré si c'est de la glace pure. Par exemple, si c'est de la glace bien salée, chauffée à moins 15, ça suffit. On fait fondre de la glace à moins 15. Et imaginez-vous que maintenant, vous soyez un versant en plein soleil, en plein été, pendant 12 heures, le soleil tape, eh bien peut-être qu'à cet endroit-là, ça va faire fondre la glace. Parce qu'il y a la pression, vous allez avoir une poche d'eau. Si cette poche d'eau crève, elle coule, mais elle arrive dans la pression très faible, qu'est-ce qu'elle fait? Elle boue, s'évapore très vite. Et éventuellement gèle, sauf s'il fait juste 0 degré, mais elle ne coule pas bien, mais elle boue. Donc elle coule sur quelques centaines de mètres, et comme elle boue, elle ne va pas très loin. C'est comme ça qu'on explique ces petites rigoles sur Mars. Donc de l'eau en déséquilibre, on fond de la glace profonde, et il y a des petites giclures qui sortent comme ça. Alors, voici un cratère, avec un petit gully, qui a été photographié en septembre 2005, donc il y a 2 ans. Qu'est-ce qu'il a de spécial, ce gully? Il y a 2 choses de spécial. Première chose de spécial, c'est que comme 1% des gullies, à peu près, ce n'est pas une simple rigole, petit trou, c'est un rigole mais qui est blanche. Comme si, c'est bizarre, il y a un dépôt, il y a une marque claire. Ça c'est très étonnant. C'est un gully qui est très minoritaire, il n'y en a pas beaucoup, mais comme ça. Mais bon, il y a une autre chose de spécial. Voici un gros plan sur ce gully. Oui, c'est pas une ravine, on dirait un dépôt blanc, clair. Voici la photo prise en 2005. Voici exactement le même endroit, puis pris en août 99. Il n'y était pas. Ça veut dire que ce machin-là s'est fait entre août 99 et septembre 2005. Voici un autre endroit, deuxième cratère, on va agrandir le coin là. Vous avez ici un gully clair qui est toujours là, un gully clair tel qu'il était en 2005, et le voilà tel qu'il était en 2001. En 2001, c'était une petite rigole, rien de clair dedans. En 2005, cette petite rigole est remplie de quelque chose de clair. Donc il semblerait bien que de l'eau liquide, peut-être salée comme ça, c'est pour ça qu'il y a un dépôt blanchâtre, peut-être simplement c'est la glace, que de l'eau liquide, en déséquilibre, elle bouillait, c'est pour ça qu'elle ne s'est pas étalée, parce que comme dès qu'elle sortait, elle bouillait, et coulait sur Mars, et au 21e siècle, c'est pas de l'histoire ancienne, hein, c'est le 21e siècle. Donc là, c'est un problème majeur. Le problème est compliqué, c'est que le 24 septembre, il y a donc moins d'un mois, la NASA a publié ce résultat, elle a fait des spectres de ce gully blanc. On s'attendait à trouver soit le spectre de la glace, si ce blanc était de la glace, soit le spectre de minéraux déposés par de l'eau qui boue, des sels divers et variés, Il y a une espèce de fouillis spectral, mais ce n'est pas du tout les spectres de la glace et ce n'est pas du tout les dépôts des minéraux hydratés qu'on connaît d'ailleurs sur Mars. Donc on ne sait pas ce que c'est que ces gullies blancs qui ont coulé il y a moins de 10 ans. Alors, j'ai mis deux points d'interrogation, j'ai mis réponse plus tard. Je ne peux pas vous dire quand ça sera, mais là c'est un mystère. Qu'est-ce qui a coulé sur Mars? Je ne peux pas vous dire. Avouez que c'est quand même passionnant, la science. Donc ça c'est ce que font les sondes en orbite. Il y a deux robots qui sont sur Mars. Donc c'est extraordinaire ces robots. Ils sont arrivés sur Mars en janvier 2004. Ils étaient prévus pour durer 6 mois ou 600 mètres. Vous savez, les voitures, quand on achète une voiture, elle est garantie, alors ça dépend des marques, 1 an, 2 ans, 3 ans, ou 20 000, 30 000 km. Là, c'était 6 mois ou 600 mètres. Eh bien, ils roulent encore, ça fait quasiment 4 ans. Il y en a un qui a fait 7 km, l'autre 11. Donc, quand les Américains veulent faire quelque chose de bien, ils savent le faire. Alors, il y a deux robots qui ont été lancés. Un qui s'appelle Spirit et l'autre qui s'appelle Opportunity. Alors, ces deux robots, leur but, c'était chercher des traces d'eau fossile, en particulier de sédiments, pour trouver des marques d'eau, savoir si c'était de l'eau tranquille qui avait coulé gentiment, de l'eau de débâcle et tout ça. Et il y a un des deux robots qui s'est posé dans un cratère dans lequel arrive une rivière. On s'est dit, si une rivière qui arrive dans ce cratère, ça a dû être un lac, peut-être on va trouver des sédiments lacustres là-dedans. Donc c'était le premier robot. Alors le premier robot s'est posé dans une plaine de cailloux. Tous les cailloux, c'était que du basalte. Donc ce lac, ça ne se voit pas, mais dont son fond est complètement rempli de lave. S'il y a eu des sédiments, eh bien ils sont sous la lave. Alors le robot il a fait des analyses, il n'a rien vu. Et puis il a dit, ben, la seule façon de voir quelque chose, il y a des collines à 3 km. Donc il a dit, je vais vers les collines. On dit, on verra bien, il pensait tomber en panne, garantie 600 mètres. Mais il est arrivé ces 3 km, il est arrivé au pied des collines, il est monté. Regardez le trajet qu'il a fait, là j'ai donné la cathédrale de Chartres pour donner l'échelle. La colline fait quand même 110 mètres de haut, c'est pas mal. Il est arrivé au sommet de la colline après avoir fait 5,5 km. Maintenant il est de l'autre côté et il a fait au total 7,3 km. Alors qu'est-ce qu'il a trouvé? Alors il a de très beaux paysages, hein, quand on monte sur la colline est quelque part là-dedans, au milieu du cratère. L'atmosphère de Mars en général est très claire et quand vous regardez au loin, vous voyez le rempart du cratère qui est à 50 km. De là, c'est comme quand vous êtes au Cap Griné, en France, où il y a les falaises anglaises de l'autre côté. Là, c'est pareil, hein, vous voyez les falaises anglaises de l'autre côté. Alors, en montant, il fait des analyses, et grosse déception, tous les roches qu'il analysait, c'était du basalte. Il avait des moyens d'analyse automatique. Alors, les Américains se consolaient en disant, ce basalte est altéré. Ce basalte avait été au contact avec de l'eau. Donc, on trouvait, par exemple, de la goethite et des choses comme ça. Mais, c'est pas très, très excitant, ce que les gens cherchaient, c'était des sédiments. Alors, vers le haut de la colline, le moral est un peu remonté parce qu'il a trouvé des roches stratifiées. Alors, n'importe quel géologue sait que les roches stratifiées, ça peut être des cendres volcaniques, bien sûr, ou des sédiments. Donc, est-ce que ces roches étaient des sédiments? Alors, il a fait des analyses chimiques et tout ça. Chimiquement, c'est des roches volcaniques. Et quand on les regarde en détail, parce qu'il a un microscope, nos petits robots, aussi un gros plan de roches. Vous voyez, ça fait 1 cm. Hein, on arrive à avoir des détails plus petits qu'un millimètre sur Mars. Et vous avez des formes noires, là on dirait des flèches. Mais les flèches rouges, c'est moi qui les ai rajoutées. Les flèches noires ou l'espèce de W noir ici, c'est pas du tout moi qui les ai rajoutées. C'est des cristaux qui ont cette forme-là. Et quand on a une certaine connaissance en géologie volcanique, on sait que des dépôts stratifiés avec des cristaux géométriques de cette forme-là, ça fait tout à penser à ce qu'on appelle des éruptions phréatomagmatiques. C'est quand vous avez des volcans qui se forment dans l'eau à faible profondeur. Et ça fait des dépôts qui contiennent des cristaux de cette forme-là. Donc on a envie de dire, c'est une analogie, il y a des formes qui rappellent les formes des éruptions phréatomagnétiques. Alors là, il est presque au sommet de la colline. Il voit des roches vaguement stratifiées. Si je grossis cet endroit, vous avez ce carré bleu qui est là. Je grossis le carré bleu, voire dans le carré vert. Et dans le carré vert, je vois que cette roche vaguement stratifiée, en fait c'est un tas de galets, vous voyez, des galets, ce qu'on appelle des brèches. Et si je regarde en détail, certains de ces galets, ce galet-là fait quelques centimètres, est arrondi. Or, un galet est arrondi s'il a été roulé dans de l'eau, dans de la boue, dans des choses comme ça. Et si vous comparez le paysage que je vous ai montré, cette photo-là, sur Mars, et ça, qui est sur Terre, c'est dans la cordillère des Andes, c'est des coulées de boue qui descendent d'un volcan qui s'appelle le Shunga, Ruya, ou quelque chose comme ça, et des coulées de boue, et ça fait exactement le même genre de dépôt que ce qu'on voit sur Mars. Ce qui semblerait dire qu'il y a eu des coulées de boue volcaniques, probablement sur Mars. Donc vous voyez la relation volcan et eau, c'est la deuxième fois qu'on la voit. Troisième fois qu'on la voit, en descendant de l'autre côté des collines, notre robot arrive sur un affleurement magnifiquement stratifié, avec des belles strates. On va grossir le carré jaune. Et le carré jaune monte en haut des strates très fines, là c'est la roue du robot, en bas des strates grossières. Et regardez cette strate qui ici fait un espèce de pli sous un caillou. Et quand est-ce que des strates font des plis sous des cailloux? Ici c'est sur Terre, les flancs tout le monde. C'est quand on a des explosions volcaniques qui rejettent des gros cailloux qui retombent, et en retombant elles déforment les couches qu'il y a dessous. Et les endroits où il y a le plus d'explosions, quand il y a des explosions, c'est qu'il y a des gaz dans les roches, et le gaz volcanique le plus abondant sur Terre, et sans doute sur Mars, c'est la vapeur d'eau. Donc vous voyez qu'on a trois indices qu'il y a un volcanisme accompagné d'eau sur Mars, là où s'est posé Spirit. Il y a des choses qui ressemblent à des coulées de boue, il y a des choses qui ressemblent à des explosions phréatomagmatiques, il y a des choses simplement qui indiquent qu'il y a un volcanisme explosif, donc très probablement de la vapeur d'eau. Sur ce, on était allé chercher des sédiments lacustres, on ne les a pas trouvés, mais on a des indications d'interaction au volcanisme. C'est une consolation. Opportunity, c'est le deuxième robot. Alors là, on ne l'a pas du tout posé à un endroit morphologiquement intéressant, un ancien lac. On l'a posé dans la région de Mars, qui avait le plus de rouille. On sait identifier la rouille à sa couleur, avec ses spectres. Et vous avez ici une carte d'un endroit de Mars, où il y a jusqu'à 15% d'hématite, c'est de la rouille, sur le sol de Mars. On s'est dit, rouille, hématite, peut-être que ça veut dire eau, on va se poser par là. Donc le robot devait se poser là-dedans. On ne sait pas bien viser sur Mars, hein, c'est loin. Donc on sait qu'on va tomber dans une ellipse qui fait à peu près 50 km de long sur 10 km de large. Mais on ne sait pas où on va se poser là-dedans. Alors évidemment, on choisit un endroit plat pour se poser. Imaginez qu'il y ait une montagne et qu'on se pose juste là, on va complètement dévaler. Donc ils ont décidé de se poser là-dedans. Ils se sont posés quelque part par là. Alors, par hasard, le robot s'est posé au fond d'un tout petit cratère, tout petit, qui fait 20 mètres de diamètre. Là, c'est le reste du robot qui s'est posé. Et ça, c'est la photo qu'a pris le robot 3 mois après, ou 2 mois après, être fait des analyses dans le cratère. Il est ressorti, et en sortant, il a pris une photo derrière lui, et on voit ce petit cratère. Alors, c'est bien qu'il soit tombé dans le petit cratère, parce que sinon, c'est une mer de sable, à cet endroit-là. Une grande mer de sable. Sable rouillé, peut-être, mais du sable quand même. Mais dans le cratère, comme c'est un petit trou, on a vu des roches. Et voici les premières photos, quasiment arrivées le lendemain de l'atterrissage, où on voyait des falaises, des petites falaises, ce ne sont pas des falaises grandioses, hein, 75 cm de haut, mais des affleurements, des roches, et ces affleurements sont stratifiés. Là encore, c'est bon signe, roches volcaniques ou sédiments. Mais ce n'est pas exclu que ce soit des sédiments. Alors là, le robot a regardé ça de très près, et il a vu, par exemple, des sédiments de ce genre-là. Les couches ne sont pas parfaitement parallèles, mais dessinent des espèces de S qui se recoupent, vous voyez. Là, vous avez le schéma interprété. Et n'importe quel sédimentologue averti vous dit que des sédiments de ce genre-là, ça se fait sous un courant d'eau. Donc ces sédiments-là, c'est du sable aggloméré qui s'est déposé avec un courant d'eau qui venait de gauche à droite dans le cas de l'orientation de ce tableau. Donc ces sédiments-là se sont faits dans de l'eau, sous l'eau et de l'eau qui coulait. Voici ici des sédiments terrestres identiques que j'ai pris dans les corbières. Hein, et vous avez ce même genre de stratification inclinée en biseau, caractéristique d'un courant d'eau. Deuxièmement, dans les sédiments, alors ici, ils sont parfaitement plats, parfaitement horizontaux, et on voit des espèces de petites fentes, vous voyez, comme si j'avais donné des petits coups de couteau dans la roche. Il y a des centaines de petites fentes qui sont un peu dans tous les sens. Si je grossis, vous avez des fentes qui sont comme ça. Alors, vous voyez l'échelle, c'est pas grand, ça fait un petit centimètre de dimension. Et une fente comme ça, là encore, n'importe quel géologue qui a une certaine expérience reconnaît que cette fente, c'est l'empreinte d'un cristal qui s'est fait dans de la boue molle. Le cristal, en poussant, a déformé la boue, il a pris la place. Et ensuite, si le cristal a été dissous et que la boue est devenue de la pierre, il reste l'empreinte du cristal. On appelle ça une pseudomorphose en géologie. Eh bien, quand on reconnaît la forme de ce cristal, ça a tout à fait la forme, j'ai dit que ça ressemblait furieusement, la forme de cristaux de gypse. Et le gypse, c'est des cristaux comme ça, qui se forment dans des lacs, des marécages salés ou en bord de mer, dans des marais salants. Vous avez ici une roche terrestre qui a 250 millions d'années qui s'est déposée dans un tel marécage et vous avez, alors vu de face et vu par la tranche, ces empreintes de cristaux de gypse, donc fossiles terrestres de 250 millions d'années. Ce qui montre que là où s'est déposé ce paysage sur Terre il y a 250 millions d'années, ça devait ressembler à ça. Enfin, il n'y avait pas de flamant rose il y a 250 millions d'années. Enfin, vous me remplacez le flamant rose par un dinosaure et c'est pareil. Donc, paysage terrestre il y a 250 millions d'années, où se déposaient ces cristaux de gypse, et bien sur Mars, ça ne devait pas être trop différent. Il n'y avait ni flamant rose, ni dinosaure, très probablement. Mais un paysage comme ça. Toujours dans ce petit cratère, il a vu extraordinairement de choses dans ce petit cratère. On voyait des roches par la tranche, on voit des roches par le dessus, les strates par le dessus, des dalles. Et si vous regardez les dalles par-dessus, voilà ce que vous voyez. Et ça, ça ressemble typiquement à de la boue qui s'assèche. Voilà les strates martiennes. Ça, c'est de la boue terrestre qui s'est asséchée. J'ai trouvé ça à côté de l'endroit où j'ai ramassé mes cristaux de gypse. C'est donc de la boue séchée sur Terre qui a 250 millions d'années. Dessus, elle a été recouverte peut-être par 2000 mètres de roche pendant les millions d'années qui ont suivi. L'érosion a renlevé les 2000 mètres de roche, et par hasard, le niveau d'érosion aujourd'hui fait affleurer aujourd'hui ce marécage fossile du sud de la France. Eh bien, c'est peut-être, probablement, sans doute, je ne sais pas ce qu'il faut dire, la même chose sur Mars. Les analyses chimiques montrent que globalement, la chimie de cette roche-là, ça ressemble à des argiles riches en soufre, en calcium et en fer. Donc, tout ça, c'est tout à fait compatible avec des dépôts dans un lac ou dans une rivière qui coule de temps en temps, puisque de temps en temps, on a des preuves de courant. Alors, notre robot a quitté ce petit cratère, il a roulé des kilomètres et des kilomètres avant d'atteindre des paysages de ce genre-là, où sur des dizaines d'hectares, il y avait des fentes de dessiccation, etc., etc., comme si vraiment c'était généralisé sur des kilomètres carrés, on a ce dépôt d'une ancienne boue avec des formes de cristaux de gypse, donc déposés au fond d'un ancien marécage salé, avec ces craquelures qui ressemblent un ancien marécage desséché. Et quand on regarde par la tranche ces strates, on voit des choses comme ça. Alors, regardez l'échelle, là, c'est 3 cm. Vous voyez les couches qui sont ondulées. Hop, 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 vous voyez. Les Américains parlent de festoon, on pourrait dire feston en français. Et la pente à droite et à gauche est symétrique. Si vous regardez bien, c'est hop, 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 très symétrique. Alors ça, on connaît des dépôts comme ça, symétriques. Ça se fait quand on a du clapot sous quelques centimètres d'eau. Quand vous avez du clapot, des petites vagues, pas de courant, sous quelques centimètres d'eau, ça fait des espèces de choses comme ça, hop, relativement symétriques. La pente à droite est égale à la pente à gauche. Et grosso modo, la longueur, l'intervalle entre deux crêtes est à peu près égale à la profondeur de l'eau qui était agitée. Donc là, c'est au bord de la mer. Quand ces machins-là sont faits, il devait y avoir des petites vaguelettes, un petit clapot, mais pas de courant, sous, je ne sais pas, 10 cm d'eau. Là, il y a à peu près 3 cm entre deux petites crêtes. Ça veut dire qu'on avait probablement un marécage de quelques centimètres d'eau avec des petites vagues qui clapotaient. Et le lieu sable s'est mis comme ça. Alors, nos deux robots ont fait de la météo aussi. Ils ont mesuré la température, etc. Alors, évidemment, il fait, vous voyez, le jour, l'été, il fait moins 20, la nuit, moins 50. L'hiver, le jour, il fait moins, là où il était, il fait moins 40 et la nuit, il fait moins 70. La nuit, le robot se recouvre de givre. Alors la nuit, on ne le voit pas, il fait noir et le robot n'a pas de lumière pour éclairer. Mais le matin, si sa batterie n'est pas vide, il recharge sa batterie avec des panneaux solaires, si sa batterie n'est pas vide le matin, il a encore de quoi faire des photos avant que le soleil ne l'éclaire. Et il découvre, avant que le soleil ne l'éclaire, que des fois le robot est tout blanc. Là, c'est une mire colorée pour faire ses réglages de caméra. Il y a des ronds de couleurs diverses, il y a un manche tout noir. Et là, tout s'est blanchi, parce que la nuit, le robot se recouvre de givre, de glace. Vu la température, ce n'est pas de la glace carbonique. Et dès que le soleil atteint le robot, pof, le givre se disparaît en se sublimant. En général, il fait beau sur Mars, mais il y a des nuages. Par exemple, ici, vous avez au fond d'un cratère, on voit de délicieux cirrus, on voit même le soleil à travers. Vous avez donc des cirrus qui ont des petits cristaux de glace. Alors maintenant, Opportunity, comme son collègue Spirit, est resté en vacances pendant 4 mois, c'était l'hiver. Donc le soleil n'éclairait plus assez ses panneaux solaires, donc il s'était mis au repos. Et il vient de se réveiller, si on peut dire, parce que le soleil est assez haut. Et Opportunity en particulier est à côté d'un cratère qui fait 80 mètres de profondeur. Et je vous annonce qu'il commence à descendre dedans. Il va forcément tomber en panne un jour ou l'autre. Il était garanti 3 mois. Il a 4 ans. Mais il descend dans son cratère et on va attendre des nouvelles. Donc on se posait la question de l'eau pérenne sur Mars. Y en a-t-il eu ? La réponse est il y en a eu un certain temps. Et peut-être même plus encore, oui, je ne me mouille pas. Mais souvent, le paysage martien, au niveau d'opportunité en particulier, a dû ressembler à des genres de paysages comme ça.
Et j'ai mis suite
dans les années qui viennent. Alors, on peut encore se poser la question, ben pourquoi n'y a-t-il plus d'eau liquide en surface sur Mars? Je ne parle pas des petits pissous, des petites gulises, mais des grands lacs, des choses comme ça. Alors qu'il y en avait avant, maintenant il n'y en a plus. Alors, la faible gravité et l'absence de champ magnétique, tout ça, j'ai fait une faute là, parce que j'en dis fond, font que Mars perd lentement son atmosphère. J'ai mis Mars fuit, d'où l'image de la baignoire avec la fuite. Puisque Mars fuit, la pression diminue, la quantité de gaz carbonique dans l'atmosphère diminue, l'effet de serre diminue et la température baisse. La pression baisse et la température baisse à cause de cette fuite. Alors de 4,5 à 3,5 milliards d'années à peu près, il y avait de l'eau liquide pérenne sur Mars, très probablement il pleuvait, il y avait des lacs et tout et tout. C'était très bien. Peut-être que des bactéries ou des choses comme ça se sont développées. De 3,5 à 3, c'est la période de transition. Il y avait plus ou moins d'eau liquide en fonction de l'intensité du volcanisme. Il y avait une crise volcanique, ça fournissait du CO2, ça augmentait un peu l'effet de serre, il faisait un peu plus chaud, puis le gaz carbonique partait, ça se refroidissait, nouvelle éruption volcanique. Donc on a une période de transition entre un Mars, on va dire, doux et humide, et un Mars depuis 3 milliards d'années, qui est glacial et sec. Il n'y a plus d'eau. Il n'y a plus d'effet de liquide, il n'y a plus d'effet de serre. La seule chose qui arrive, c'est que de temps en temps, sur des versants exceptionnellement exposés au soleil, il y a un peu de glace qui arrive à fondre en profondeur, l'eau sort et ça fait de petites rigoles, comme ça. Donc sur Mars, actuellement, il n'y a certainement plus d'eau liquide en équilibre. Par contre, il en reste beaucoup dans le sous-sol. Le sous-sol est gelé, il y a beaucoup de glace gelée en surface. Mais sur Mars, plus on s'enfonce, plus il fait chaud, c'est comme sur la Terre. Sur la Terre, on prend 30 degrés par kilomètre d'enfoncement. Sur Mars, quand on fait les calculs, vu la taille et tout ce qu'on sait sur Mars, c'est raisonnablement 10 degrés. Donc, si on est sur Mars en surface, il fait moins 50, mais à 5 km de profondeur, il fait 0. Et là, la glace ne sera pas de la glace, ce sera de l'eau liquide. Donc, très probablement, il y a de l'eau liquide en profondeur. Y a-t-il des petites bactéries dans cette eau profonde? Évidemment, je ne sais pas. Après Mars, si on s'éloigne, il y a les astéroïdes. Et les astéroïdes, on les connaît très bien, parce qu'on en a plein de morceaux dans nos collections. C'est les météorites. Les météorites sont des morceaux d'astéroïdes. Alors, voici un astéroïde. Itokawa. Voici une météorite que je tiens dans mes doigts. Et les météorites contiennent jusqu'à 10% d'eau. Donc il y a de l'eau dans les météorites. J'ai dit qu'il y a jusqu'à 10% d'eau dans les météorites, en particulier dans les chondrites carbonées. Alors c'est pas de l'eau liquide, hein, c'est de l'eau qui est associée aux argiles, associée à de l'oxyde de fer, de la rouille et tout ça. Là vous avez des argiles au microscope électronique. Là vous avez des sphérules de magnétite, c'est de l'oxyde de fer hydraté. Là vous avez des veines de phosphate, etc. Il y a de l'eau dans les météorites. Et on va tout de suite aller au-delà des astéroïdes et des météorites, dans les planètes géantes. Alors je rappelle ce que c'est qu'une planète géante. Au centre, il doit y avoir quelque chose avec une part de fer, 3-4 parts de cailloux, une dizaine de parts de glace, l'ensemble gros comme plusieurs fois la Terre. Et cet ensemble est entouré d'un énorme cocon d'hydrogène et d'hélium, qui dans le cas de Jupiter et Saturne, par exemple, fait 99% de la masse. Et voici une planète géante, alors ça c'est Jupiter-Saturne, c'est Neptune, c'est une des plus belles, parce qu'elle est bleue, c'est joli. Alors, ce que je vous dis c'est la théorie, de quoi est constituée ce qu'on voit de ces planètes géantes, et ce qu'on voit c'est le haut des nuages qui sont dans la couche de gaz. Alors ça s'analyse spectralement de l'extérieur, il y a une sonde qui est rentrée dans Jupiter et qui l'a analysée en direct. Elle est rentrée dans Jupiter au bout d'un parachute, elle est tombée, puis au bout d'un moment elle est morte de sa belle mort, et puis elle a continué à tomber, mais après on ne sait pas ce qu'elle est devenue, rentrée dans Jupiter. Et voilà la composition chimique donc, de la haute atmosphère de ces planètes gazeuses. C'est de l'hydrogène, très dominante. C'est de l'hélium, bien dominant aussi. Et les deuxièmes composés gazeux qui arrivent après, c'est le méthane et l'eau. Puis viennent d'autres composés, mais vous voyez que l'eau fait 0,1% des gaz des planètes géantes comme Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune. Alors, je ne parlerai pas plus que ça des planètes géantes, parce que l'eau externe, bon, il y en a quelques fractions de pourcents. Et quant à l'eau interne, il y en a certainement beaucoup. Mais je suis géologue, je ne pourrais pas vous montrer des photos. Alors, on pourrait faire des calculs, des modèles, des machins, mais ce n'est pas mon truc. Alors, on va regarder ce qu'il y a autour des planètes géantes. Alors, autour des planètes géantes, il y a des anneaux. Tout le monde le sait. Alors, tout le monde connaît les anneaux de Saturne, c'est le plus beau. Ils sont connus depuis 1610. Depuis 1610, on a vu qu'il y avait quelque chose. On a compris que c'était des anneaux en 1669. Et beaucoup de gens pensent qu'il n'y a que Saturne qui a des anneaux. Mais Saturne, Jupiter, Uranus et Neptune ont des anneaux. Ceux de Saturne sont simplement les plus beaux, les plus gros, les plus visibles. qui se voyaient avec un télescope du XVIIe siècle. Pour voir les anneaux d'Uranus depuis la Terre, il faut un télescope infrarouge du XXe siècle. Pour voir les anneaux de Jupiter ou de Neptune, il faut aller à côté avec des sondes. Mais les quatre ont des anneaux. Alors on va regarder les plus beaux, qui sont les anneaux de Saturne. Je vous montre ici les anneaux de Saturne pris par la sonde Cassini dans toute leur majesté. C'est d'une beauté extraordinaire. Alors, les anneaux de Saturne ont longtemps intrigué les gens. Les gens se sont dit, mais qu'est-ce que c'est que les anneaux de Saturne? C'est incroyable, qu'est-ce que c'est que cet anneau? Alors, il y a plein des dizaines d'hypothèses quant aux anneaux de Saturne. Je vous montre l'hypothèse très sérieuse, mais la plus qui nous, au XXe siècle, XXIe maintenant, nous fait complètement sourire, mais à l'époque, elle était très sérieuse. On est donc au XVIIe siècle, et M. Léon Tsehalachi, juste avant sa mort, il apprend qu'on vient de découvrir les anneaux de Saturne, et il se demande ce que c'est. C'est une époque où on se posait beaucoup de questions sur les reliques et tout ça, et il y avait beaucoup de reliques qui circulaient en Europe, il y avait des morceaux de la vraie croix, couronne d'épines et tout ça, et il y avait une vingtaine de saints prépuces de Notre Seigneur. La circoncision, vous connaissez, Jésus était circoncis. Et pour lutter un peu contre ça, l'Église disait, c'est pas possible, il y en a peut-être un de vrai, mais s'il y en a 20, il y en a au moins 19 de faux. Et donc, M. Léon Tsehalachi a proposé que les anneaux de Saturne soient le saint prépuce de Notre Seigneur, qui, lors de l'ascension, ait quitté la Terre et soit monté au ciel pour se mettre autour de Saturne. C'est une hypothèse comme une autre, tout à fait sérieuse, hein. Alors, j'ai mis deux tableaux du XVIIe siècle pour illustrer ça. C'est plus tellement l'hypothèse qu'on donne aujourd'hui pour expliquer les anneaux de Saturne. Alors, ce qu'on pense aujourd'hui des anneaux de Saturne, c'est que ce sont des milliards de particules, dont les plus grosses seraient grosses comme quelques maisons, les plus petites de taille millimétrique ou inframillimétrique. Et c'est un dessin, c'est évidemment pas une photo. Chacune de ces milliards de particules tournant autour de Saturne, comme un satellite, je dirais pour son propre compte. Il y a toute une dynamique pour savoir pourquoi c'est plat, pourquoi c'est structuré comme ça, c'est pas mon propos aujourd'hui. Mon propos aujourd'hui, c'est de dire de quoi sont faits ces milliards de particules qui tournent autour de Saturne. Eh bien, les méthodes spectrales de Cassini-Huygens ont montré que le composé dominant, c'était la glace d'eau. Là, c'est une constitution des anneaux externes. Là, c'est un détail des anneaux internes. C'est en fausse couleur. Quand c'est bleuté, c'est de la glace d'eau pure. Quand c'est rouge, c'est de la glace d'eau très sale et salie par de la matière organique, genre grosses molécules, genre goudron sur une plage bretonne, vous voyez. Entre deux nettoyages, de temps en temps, c'est pas très propre, c'est une plage bretonne. Donc c'est un peu ça. Et vous voyez que les anneaux externes, c'est de la glace assez pure. Et quand vous allez vers l'intérieur, c'est de la glace de moins en moins pure. Et ce qui est extraordinaire, c'est que ça ne se mélange pas. Vous avez des endroits de glace très sale qui coexistent avec de la glace très pure. Quand c'est un violet, c'est que c'est un peu intermédiaire. Et là, il y a certainement beaucoup de physique à faire. Quelle est l'origine de ce non-mélange assez extraordinaire? C'est pas mon propos, mais l'eau semble être, au moins pour les anneaux externes, le composant très largement dominant des anneaux de Saturne. Alors, les planètes géantes sont entourées de satellites. Alors, des dizaines de petits satellites et 17 gros. Les petits satellites, je ne peux pas vous donner le nombre parce qu'on en découvre tout le temps. Il y a quasiment un par mois. Donc, je ne sais plus à combien on en est. Saturne doit en être à plus de 60 en ce moment. C'est monstrueux. Mais des satellites gros, c'est sûr qu'on les a tous découverts, parce qu'on les voit au télescope depuis la Terre, il y en a 17. Alors parmi ces 17 satellites, il y en a un qui est constitué que de cailloux, donc j'en parlerai pas aujourd'hui, c'est Io. Il y en a un autre qui est constitué de roches recouvertes de glace, j'en parlerai, Europe. Et les 15 autres sont constitués majoritairement de glace, j'en parlerai aussi. Là vous avez une photo qui montre Jupiter. Je rappelle que Jupiter en diamètre c'est 11 fois la taille de la Terre, c'est-à-dire que la Terre a à peu près la taille de ce cyclone qu'on appelle la grande tache rouge. C'est 300 et quelques fois la masse de la Terre. La température en plein soleil à la surface des nuages, c'est à peu près moins 150 à moins 200 degrés. Jupiter a 4 gros satellites. Et ici, on en voit 2. On voit Europe, ici, qui a la taille de la Lune. Et on voit Callisto, en bas, qui est une fois et demie plus gros que la Lune. Alors, Europe, d'abord. Alors, c'est 3000 km, la taille de la Lune. Là, c'est en couleur naturelle. Là, c'est une couleur un peu renforcée pour visualiser les détails. C'est beau, mais ça ne ressemble absolument pas à la Lune. Alors, le spectre de surface de ce planète, c'est de la glace quasiment pure. La surface, c'est de la glace pure. On mesure la masse d'Europe, la taille d'Europe. En faisant une division, on découvre la densité d'Europe. Et Europe a une densité de à peu près 3 grammes par centimètre cube. 3 grammes par centimètre cube, ce n'est pas la densité de la glace. La glace, c'est 0,9. C'est la densité des cailloux. Le caillou le plus fréquent dans les météorites et tout ça, c'est à peu près 3,1 de densité. Là, on a 3. Alors, on a une planète qui est principalement faite de cailloux, avec peut-être un peu de fer au milieu, mais qui est recouverte d'eau. de glace, c'est ce qu'on voit. Alors si on dit que toute l'eau d'Europe est en surface, sous forme de glace bien entendu, comme on connaît la densité, c'est une histoire de règle de 3 et de pourcentage, on peut calculer l'épaisseur de la couche d'eau sur ce satellite qui fait à peu près 3000 km. Et on trouve que l'épaisseur de la couche d'eau fait à peu près 100 km. Ce n'est pas très différent de la Terre. Sur la Terre, on a une couche d'eau qui en moyenne fait 3-4 km, c'est l'océan. Alors sur la Terre, il y a des îles qui dépassent. Enfin, si l'océan faisait 10 000 mètres de plus, il n'y aurait aucune île qui dépasse et la Terre serait une planète entièrement couverte d'eau. Là, vous mettez 100 km d'eau sur la Terre, il n'y aurait vraiment plus une île. Eh bien, Europe serait, comme la Terre, plutôt comme la Lune, vu la taille, recouverte de 100 km d'eau, gelée, évidemment. Il fait moins 150 degrés en plein été, en plein soleil. Moins 230 à moins 240 la nuit. Donc la couche d'eau et l'intérieur rongé. Alors, on va faire une série de zooms. Il y a beaucoup de pubs qui font ça, alors soit on part de loin et de près et on s'éloigne, soit on part de loin et on se rapproche, tout ça pour vous vendre un rasoir jetable ou une assurance. Là, on va faire un zoom sur Europe pour voir de plus en plus près. Alors là, on zoome dans le carré bleu, on a ce carré bleu là. Alors vous voyez que la surface est ahurissante. Si j'avais du temps, je vous parlerais des heures de la surface d'Europe, c'est extraordinaire. Donc là, le carré rouge, le carré bleu, c'est ça. Le carré bleu, donc c'est ça. On va zoomer, vous voyez, il y a des rayures, là on va zoomer. Carré rouge, voilà ce que vous avez. C'est complètement ahurissant comme surface. Hein? Donc ça, c'est le carré rouge. On reprend le carré rouge qu'ici, on zoome sur le carré violet qui est là. Et voici le carré violet. À quoi ceci vous fait penser? Ça vous fait penser à ça. On a l'impression d'iceberg, pareil, qui dérivait. Et avec des calculs assez subtils, on arrive à mesurer l'épaisseur de ces glaçons, c'est assez subtil, c'est très facile. On sait que dans un glaçon, il y en a un dixième qui émerge et 9/10 sous l'eau. Ça dépend ni de la gravité ni rien de tout ça. Depuis qu'Archimède a démontré ça, ça marche très bien. Il suffit de mesurer la hauteur de ce machin-là, qui est entre 500 mètres et 1 km. Ça veut dire que ce glaçon fait entre 5 et 10 km d'épaisseur. Et de temps en temps, cette banquise craque et on a la mer à côté, enfin l'eau liquide à côté, évidemment, qui regèle assez vite puisqu'il fait moins 150. Donc, Europe. On avait cette structure-là, on savait qu'on avait 100 km d'eau, H2O, la surface était de la glace, mais on ne savait absolument pas quelle épaisseur. Mais très probablement que l'épaisseur de glace est assez mince, de 5 à 10 km, et que dessous, il y a de l'eau liquide en grande quantité, l'eau liquide chauffée par des volcans. Il y a, sur le satellite à côté, il y a des volcans très actifs. Donc là, le dessinateur de la NASA a mis un volcan fissural qui chauffe l'eau. Et vous avez donc, sous une banquise pas très épaisse, un océan très grand. Alors, Europe, on peut vraiment l'appeler la planète ou le satellite océan. Alors, la question qu'on se pose, évidemment, c'est y a-t-il de la vie dans cet océan? Alors, si oui, nos cousins les plus probables, les moins lointains dans le système solaire, eh bien, ça sera des Européens. Ça, c'est pas de ma faute. Hein. Les Américains ne sont pas très contents, ils auraient préféré que ce soit des Américains. Mais satellite s'appelle Europe, c'est le nom d'une muse que Jupiter a tendrement aimée, donc voilà. Alors, j'ai dit qu'autour de ces planètes géantes, il y avait un satellite de roche, Io, j'en parlerai pas, un satellite de roche recouvert de glace, Europe, je viens d'en parler, et puis 15 satellites principalement de glace. Alors, je pourrais en parler de tous les 5, mais je vais considérablement simplifier. Si je simplifie un petit peu, il y a 4 types de satellites. Si je simplifie beaucoup, il n'y en a plus que 3. Vis-à-vis de l'eau, il n'y en a plus que 3. Il y a des boules de glace sans histoire. Par exemple, ici, vous avez Rhea, qui est un satellite de Saturne. Vous avez des boules de glace avec une histoire géologique complexe, il y a évidemment des intermédiaires, et vous avez une boule de glace avec une atmosphère, c'est Titan. Alors on va étudier un seul exemple de chacune de ces 3 catégories, et comme c'est les satellites de Saturne qu'on connaît et de loin les mieux, parce qu'on a la sonde Cassini qui tourne en permanence autour de Saturne, aujourd'hui encore, et qui nous envoie des données tout le temps, on va parler de 3 exemples de satellites de Saturne. Alors avant, il faut faire un exercice de convention mentale. Vous avez la Terre, vous avez les satellites de glace. La Terre, la température externe, c'est une quinzaine de degrés. Satellite de glace, la température externe, c'est à peu près moins de 100 degrés. Sur Terre, la température interne, c'est largement plus que 1000 degrés. Sur les satellites de glace, la température interne, a priori, c'est faible. J'ai mis inférieur à zéro, je ne peux pas vous dire combien c'est, mais a priori, c'est faible. En surface, la Terre, il y a des cailloux. En surface, les satellites de glace, c'est de la glace. J'ai mis de la S à glace parce que ce n'est pas de la glace d'eau pure, il y a un peu de glace d'ammoniac, de glace carbonique. La glace d'eau est dominante, mais il y a peut-être d'autres glaces. Donc quand on voit des falaises et tout ça, n'oubliez pas que ces montagnes, c'est dans de la glace, ce n'est pas dans du caillou. L'intérieur de la Terre, C'est du caillou, c'est de la roche. Ce n'est pas du magma. Il n'y a que les profs de géographie qui pensent que la Terre, c'est du magma. Géologues sérieux, depuis 1880 et quelques, savent que l'intérieur de la Terre, c'est de la roche solide. L'intérieur des satellites de glace, c'est de la glace. Sur la Terre, il y a des volcans. Un volcan, c'est de la lave qui sort. Il y a une belle exposition, un beau stand dans la mairie de Saumur. Et qu'est-ce que c'est que la lave? C'est de la roche fondue. La roche, c'est l'intérieur. Si, pour nous en X ou Y, l'intérieur de la Terre fond localement, sous le Vésuve, par exemple, il sort de la roche fondue. Sur les satellites de glace, s'il y a un volcan, il sortira de la lave. Mais la lave, qu'est-ce que c'est? C'est de l'intérieur fondu, c'est-à-dire de la glace fondue, c'est-à-dire de l'eau liquide. Sur les satellites de glace, si on a des volcans, c'est des volcans d'eau. C'est difficile à imaginer un volcan d'eau. Sur la Terre, on a des gaz volcaniques. Qu'est-ce que c'est la gaz volcanique? C'est principalement de la vapeur d'eau, du gaz carbonique. Mais sur nos satellites de glace, nos gaz volcaniques, si on en a, qui sont dissous dans la lave, n'oubliez pas que la lave, c'est de l'eau, ben ce sera du méthane et des hydrocarbures divers, peut-être un peu d'ammoniac. On pourra avoir du gaz, du méthane, des hydrocarbures qui sortent. Sur la Terre, on a des liquides en surface, la pluie, les rivières, les lacs, les mers. Cette pluie, c'est de l'eau liquide. Sur les satellites de glace, si on a des liquides de surface, je rappelle qu'il fait entre moins 105, moins 200 degrés, si on a de la pluie, des rivières, des lacs, des mers, qui couleront sur des rochers de glace, eh bien, ça sera du méthane ou des hydrocarbures liquides. Donc maintenant, quand je parlerai de volcan, pensez volcan d'eau et gaz volcanique, genre méthane. Quand je parle de pluie ou de lac, pensez méthane liquide, ne pensez plus eau. Et quand je parle roche, pensez glace. C'est ça la conversion mentale qu'il faut faire. Alors, 302 satellites, les petits, sans histoire. Enfin, les satellites sans histoire, voici un, mi-masse. Alors, mi-masse vu par derrière, mi-masse vu par devant, c'est purement conventionnel, le devant et le derrière, vous mettez le devant et le derrière, comme vous voulez. Ça n'a aucune importance. Un autre satellite avec une histoire compliquée, le prototype des satellites de glace actifs, Encelade. C'est également un satellite de Saturne, et c'est pas gros, il a à peu près la même taille que mi-masse, à peu près 500 km. Pour vous montrer la taille d'Encelade par rapport à un pays ONI, l'Angleterre. Personne à la radio pour savoir où on en est, là. Donc, Encelade a la taille de l'Angleterre, à peu près, vous voyez, même un peu plus gros. Donc, l'Angleterre, c'est pas grand-chose. Parce que si vous enlevez le Pays de Galles, l'Écosse, il reste vraiment pas grand-chose. Et rien quand vous voyez cette photo, vous voyez que, bon, ici, il y a des cratères, mais ailleurs, il n'y a pas de cratères, une espèce de zébrure, un fouillis, c'est monstrueux. Qu'est-ce qui se passe sur Encelade? Et si on fait du rasmode sur Encelade pour voir la géologie de surface, c'est complètement ahurissant. Qu'est-ce que c'est que ce bazar? On dirait des pentes de ski, de neige vierge avec des gens qui ont fait du hors-piste, vous voyez. Bon, il n'y a pas d'Encelade qui font du hors-piste, il y a toute une géologie de glace à faire. Quelle activité, c'est extraordinaire. Alors, le 14 juillet 2005, c'est pas pour fêter la prise de la Bastille, mais c'est les contraintes orbitales qu'on fait ça, Cassini a fait du rasmote juste au-dessus du pôle sud, et il a vu ces espèces de rayures, ces striations extraordinaires, qu'ils ont appelées les rayures de tigre. Et il s'est aperçu de la chose suivante. Normalement, l'endroit le plus chaud d'une planète, c'est là où il y a le soleil au zénith. Donc là où il dit, disons, sous l'équateur ou sous les tropiques. Donc si vous avez Encelade, la température normale qu'il devrait faire, comme si le soleil est là, par exemple, c'est là qu'il ferait le plus chaud. Alors plus chaud pour Encelade, c'est relatif, hein, ça fait moins 195 degrés. Et puis plus on s'éloigne de l'eau, il fait plus chaud, plus il fait froid, et ça peut descendre jusqu'à moins 210. Eh bien, quand on mesure la température d'Encelade, c'est pas là qui fait le plus chaud, c'est au pôle sud. Au pôle sud, je vous rappelle, c'est là. Et avec ses capteurs infrarouges, Cassini pouvait mesurer la température d'un carré d'à peu près 500 mètres sur 500 mètres. Température moyenne. Alors, j'ai mis les températures en degrés Celsius. Ici, il fait moins 195, moins 93. Là, il fait moins 180. Et là, il recommence à faire froid. Quand on passe au-dessus de ces fissures, eh bien, il fait plus chaud que d'habitude. C'est au niveau des fissures qu'il fait chaud. Alors, quand on voit de loin, on ne voit pas bien, parce que de loin, la résolution est mauvaise. C'est tout le pôle sud qui est chaud. Mais en détail, c'est pas n'importe où le pôle sud. C'est les fissures qui sont chaudes. Ça veut dire que par ces fissures, il est sorti il n'y a pas très longtemps, ça n'a pas encore eu le temps de refroidir, quelque chose de chaud. Des volcans, par exemple. Et n'oubliez pas qu'un volcan, chez nous, c'est de l'eau. Chez nous, enfin. Chez ce petit machin qui est un peu plus gros que les Anglais. Alors, est-ce que ça sort encore? Eh bien oui, voici une photo prise le 27 novembre 2005. C'est la première photo historique où on voit le pôle sud et on voit des jets de vapeur. C'est plus une photo prise à contre-jour, ça permet bien de voir les jets de vapeur. Des jets de vapeur qui sortent du pôle sud. C'est à ce niveau-là qu'il y a des volcans actifs avec des jets de vapeur, et ce n'est pas des petits jets de vapeur, regardez la taille du satellite, ça sort quand même très loin. Alors ça, c'est une photo prise le 27 novembre, ça, c'est une photo prise le 4 mai, donc 6 mois plus tard, Et il y a toujours les jets de vapeur qui sortent du pôle sud. Ces éruptions volcaniques ont l'air, entre guillemets, permanentes. Ce n'est pas un petit pet de travers de temps en temps. Pendant au moins 6 mois, ça dure. Alors voilà, c'est un dessin, Encelade comme si vous y étiez, un volcan d'eau, avec la fumée qui sort. La fumée, c'est de la vapeur d'eau et des gaz, du méthane et tout ça gelé. Alors comment faire un volcanisme pareil sur un si petit corps dans une région si froide? Alors là, j'aurai vraiment pas le temps, mais si vous mettez un peu d'ammoniac dans la glace, ça baisse son point de fusion. Si vous faites des marées qui déforment et qui réchauffent l'intérieur, on arrive, en mettant les ingrédients qu'il faut, à faire fondre l'intérieur, et j'ai mis le tour est presque joué. Alors maintenant, on a les résultats sur la chimie de ces gaz volcaniques. L'eau est dominante, il y a un peu d'azote, mais il y a aussi de l'acétylène, du propane. En fait, il y a plein de molécules organiques là-dedans. Je vous dis, la vie est toujours sous-jacente. Il y a plein de choses qui feraient frétiller Miller d'impatience s'il voyait ça. Et j'ai mis vivement le prochain survol rapproché d'Encelade, qui aura lieu bientôt. Finalement, c'est le 12 mars 2008, où là, Cassini va refaire un nouveau rasmot au-dessus d'Encelade. Alors, je ne sais pas quelle région il va survoler, quelles analyses il va sortir, parce qu'il passe vite. Hein. Et il tourne autour de Saturne, Encelade aussi, mais ils vont se croiser assez vite, donc il n'a pas le temps de faire des millions de mesures. Il faut que les scientifiques choisissent, je fais ci, je fais cela, etc. Je ne sais pas trop où ils vont passer, qu'est-ce qu'ils vont faire, mais il y aura sans doute des résultats nouveaux, extraordinaires, à partir du 12 mars prochain, sauf s'ils tombent en panne d'ici là. Alors Titan, c'est l'avant-dernier corps qu'on va voir. Hein. Titan, vu par Voyager, c'est le seul satellite du système solaire avec une grosse atmosphère. C'est très grand Titan, c'est plus gros que Mercure. 5150 km, complètement recouvert de nuages. Voir sous ces nuages et voir ce qui se passe dans l'atmosphère, c'est le but principal de la mission Cassini-Huygens. C'était ça. Les volcans d'Encelade, on n'en avait pas la moindre idée, on ne savait pas qu'ils allaient exister. Alors, pour voir sous les nuages, il y a plusieurs façons. Il y a l'infrarouge. Cassini peut voir en infrarouge et voir ce qu'il y a dessous. Alors voilà ce qu'on voit quand on regarde Titan en infrarouge. On voit des parties blanches. Alors, les parties blanches, a priori, c'est de la glace d'eau. C'est riche en glace d'eau. On voit des parties noires avec une limite très nette entre le noir et le blanc. Alors ça peut être deux choses, soit des mers ou des lacs d'hydrocarbures liquides, par exemple du méthane liquide, soit des hydrocarbures lourds, solides, genre goudron figé, ou méthane liquide, ou tous les intermédiaires. Les infrarouges ne peuvent pas distinguer. 10% de la masse et du budget de Cassini-Huygens, c'était européen, et la partie européenne, c'était un atterrisseur avec un parachute, qui est rentré dans l'atmosphère du Titan et qui s'est posé là. Alors, quand il était dans son parachute, il faisait plein d'analyses atmosphériques, et il avait des caméras, il filmait, et voilà le paysage qu'il voyait. Là, il est à peu près encore à 16 km d'altitude, il regarde sous lui. Il va se poser à peu près par là. Et qu'est-ce qu'il voit? On a de la chance, il s'est posé à peu près à la limite entre les parties noires, qui ressemblent quand même un peu à des mers, et les parties claires, qui ressemblent à des continents. Alors la partie claire, qui ressemble à un continent, eh bien, on voit des lits de rivières, on voit des choses extraordinaires, c'est vraiment un continent. Mais comme s'il y avait eu des rivières, n'oublie pas que les rivières, si ce sont des rivières, c'est une rivière de méthane liquide qui coule sur un socle de glace. Et puis ici, on voit quelque chose comme de la mer, avec des petits nuages, et notre sonde va tomber dans la mer. Là, il n'est plus qu'à 8 km d'altitude, il prend en vue oblique, alors la mer, la côte, et puis le continent avec des rivières, etc. Puis il se pose, et bien c'est pas la mer. La mer est sèche, c'est noir, donc c'est couleur goudron. Alors ça, c'est les vraies couleurs, hein, couleur, c'est très exagéré comme clair, mais c'est marronasse, hein, couleur des marées noires bretonnes. Le sol, c'est du sable de glace, des galets arrondis. Donc sans doute, il y a eu de l'eau liquide, la mer a dû rouler ces galets. C'est pour ça que les galets sont arrondis. Le sable est mouillé, du méthane liquide. Donc on est sur une plage de galets. Ce qu'on pense, c'est que dans le coin, il pleut parfois du méthane, que le méthane liquide coule sur les continents, mais actuellement, c'est l'été là où on est. Il fait relativement chaud, moins 180. Alors qu'au pôle, il fait de moins 190 à moins 200 degrés. Et à moins 180, le méthane il a plutôt tendance à s'évaporer. Par contre, à moins 200 degrés, il a plutôt tendance à pleuvoir. Donc c'est un peu normal qu'ici, ce machin-là, ça soit une mer asséchée. Il y a des galérons, comme dans la mer, mais elle est asséchée, parce que c'est l'été. Et puis on est à l'équateur. Alors il y a une autre façon de voir, c'est le radar, qui voit à travers les nuages. Et Cassini a un radar aussi. Et quand il passe assez près de Titan, il l'a déjà fait à peu près 15 fois, il met en marche son radar, et quand il passe, pof, il photographie au radar une bande de paysage. Et bande après bande, on voit le paysage qui se fait. Et ce qu'on voit, c'est partout des lits de rivière. Ici, c'est vers l'équateur et c'est sec. Donc les rivières qu'on a vues sur Cassini, au site d'atterrissage de Cassini, ce n'étaient pas des grandes rivières. Là, ça fait 40 km de long, donc ces rivières font 15-20 km. Là, c'est de la grande rivière de compétition qui font plus de 200 km de long. Donc il y a des grandes rivières sur Titan. Il y a des champs de dunes. Toutes ces rayures que les Américains appelaient des rayures de chat, c'est des champs de dunes. Donc le vent souffle, mais le sable qu'il déplace, ce n'est pas du sable de quartz, c'est du sable de glace. Il y a des montagnes, il y a des dunes, mais entre les dunes, il y a des montagnes, ce qui montre qu'il y a des mouvements dans la croûte titanienne qui font des montagnes. Il y a des volcans, parce qu'il y a un peu de méthane dans l'atmosphère de Titan. Or, le méthane est détruit par les ultraviolets solaires. Donc, si vous mettez du méthane, au bout d'un million d'années, il n'y en aurait plus. Comme il y en a encore, c'est qu'il en ressort. Ce qui montre qu'il doit y avoir des volcans actifs qui sortent du méthane sur Titan. On n'en a pas vu fumer, mais il doit y en avoir. Et une photo extraordinaire, les premières photos qui ont été prises au niveau du pôle sud, nord, là où il fait le plus froid, eh bien, il y a des lacs. Ça, c'est des lacs en Alaska, sur la Terre, ça, c'est des lacs sur Titan. Il y a des vrais lacs de méthane, et c'est pas petit, hein, c'est des lacs qui sont grands. Vous avez des lacs de méthane, il fait plus froid que moins 190, et vous avez probablement, quand il y a du vent, des vagues de méthane liquide qui déferlent sur une côte rocheuse faite de glace. Et voici peut-être à quoi pourrait ressembler un paysage titanien vers le pôle, avec des montagnes de glace et des lacs de méthane liquide. Alors là, c'est un schéma qui montre la structure probable de l'intérieur de Titan en mettant bout à bout tous les résultats scientifiques possibles et imaginables qu'on a trouvés. Donc une atmosphère qu'on a vue, très probablement, au moins au niveau du pôle Nord, il pleut de temps en temps, avec des rivières qui coulent et qui forment des lacs. Quand je dis il pleut, c'est du méthane. À l'équateur, il pleut, mais en ce moment, il fait trop chaud, il pleut pas. On a une couche de glace, c'est toute la surface qu'on voit, c'est de la couche de glace. Cette couche de glace, quand on fait tous les calculs et tous les modèles, fait entre 50 et 100 km d'épaisseur. Cette couche de glace, il y a certainement des mouvements, il y a des montagnes. Donc j'ai mis des flèches pour montrer que cette glace bouge, un peu comme le manteau de la Terre qui bouge, qui engendre la tectonique des plaques. Il y a certainement des volcans, j'ai mis un volcan ici, avec du méthane qui sort. Dessous, il y a une couche d'eau liquide qui fait... Elle est certainement pas pure, ça doit être de l'eau ammoniaquée et méthanée qui fait à peu près 200 km d'épaisseur. Dessous, on retrouve de la glace sur à peu près 300 km d'épaisseur. Et puis, après, on a le noyau rocheux qui fait à peu près 2000 km de rayon. Et toute la question qu'on se pose, c'est dans cette couche d'eau liquide qui est là, qui a de la place, hein, y a-t-il là aussi de la vie? J'ai mis des petits extraterrestres de forme bizarre. Évidemment, je n'en sais rien. Mais il y a la place également pour mettre, on avait des Européens sur Europe, là on peut avoir des Titaniens, mais qui seront plus profonds, pour aller les chercher, ce sera plus dur. Sur Europe, il y aura à casser une banquise de 5 km, là il y aura à casser une banquise de 50 à 100 km. Mais enfin, tous les espoirs sont permis. Et au-delà des planètes géantes, il y a la ceinture de Kuiper et le nuage de Oort. Vous connaissez tous au moins le nom d'un objet de Kuiper. Qui peut me dire le nom d'un objet de Kuiper? Pluton, qui était rétrogradé au rang de deuxième plus gros objet de Kuiper. Le plus gros s'appelant Eris, mais personne ne le connaît celui-là. Mais Pluton, c'est un objet de Kuiper, et il y en a plein d'autres. Et les comètes sont des objets de Kuiper, ou de Oort, qui de temps en temps viennent nous visiter. Alors voilà, une vue du système solaire classique, c'est ce qui est à l'intérieur du trait rouge. Le trait rouge, c'est l'orbite de Pluton, qui, comme vous savez, n'est plus une planète depuis un an et demi. Vous voyez ici l'orbite de Neptune, l'orbite d'Uranus, l'orbite de Saturne, de Jupiter, l'orbite des satellites internes, on ne les voit pas, là vous avez le Soleil. Donc le système solaire classique, celui qui est dans les posters au fond des classes, c'est ce qui est à l'intérieur du rond rouge. Et vous voyez que le rond rouge, il n'était pas comme les autres planètes. Les autres planètes tournent dans du blanc. Pourquoi elles tournent dans du blanc? C'est parce qu'elles sont à peu près toutes seules. Il y a bien quelques météorites qui traînent, mais elles sont presque toutes seules. Au-delà de Neptune, qu'on appelle les objets transneptuniens ou la ceinture de Kuiper, il y a plein de choses qui tournent. Le premier découvert après Pluton, c'était celui-là. Pluton, c'est l'orbite rouge, mais vous voyez qu'il a une orbite non pas de planète, mais de machin un peu spécial. C'est pour ça qu'il était rétrogradé. C'est pas pour le principe. La ceinture de Kuiper, c'est donc des milliards d'objets qui tournent à plat dans le système solaire au-delà de Neptune. C'est quelque part par là. Et puis, vous avez le nuage de Oort. Alors, c'est des dizaines de milliards d'objets qui tournent non pas à plat, mais tout autour du Soleil, dans toutes les directions, formant un cocon sphérique qui est immense. Là, le dessin n'est pas à l'échelle, mais à l'échelle, ça ne tiendrait pas dans la pièce. Et tous ces points noirs, qu'ils soient gros ici ou petits ici, des boules de glace, Et les comètes sont simplement des boules qui viennent soit de là, qui pour des raisons X ou Y passent à côté du Soleil. Alors quand une de ces boules passe à côté du Soleil, elle se réchauffe, la glace se sublime, et ça fait des jets de vapeur, et ces jets de vapeur sont défléchis par les rayonnements du Soleil, et partent à l'arrière par rapport au Soleil, et ça forme la queue des comètes. La queue des comètes n'indique pas le mouvement. Peut-être que la comète, elle se déplace par exemple de haut en bas ici. Elle indique simplement l'arrière du Soleil. Donc voici ce que c'est que la queue d'une comète, c'est la vapeur d'eau, les poussières, dégagées par le noyau de la comète qui est au Soleil, qui sublime et dont les poussières sont défléchies. Alors les queues des comètes ont été analysées depuis la Terre, depuis longtemps, et voici la liste des molécules identifiées depuis la Terre. Et vous voyez que parmi ces molécules, il y a évidemment H2O qui est la principale. Il y en a d'autres, il y a plein de choses, les géologues reconnaîtront avec plaisir Mg2SiO4, c'est l'olivine magnésienne, mais l'eau est très abondant dans la queue des comètes. Alors, est-ce qu'on peut savoir plus que ces analyses depuis la Terre? Oui, parce qu'il y a des sondes qui ont visité des comètes. Voici par exemple la comète Wild 2, Sauvage 2 en français, survolée en 2004 par la NASA. C'est un bloc de neige sale. Alors, quand on surexpose le noyau, on voit les jets de vapeur qui s'échappent. Si on ne surexpose pas, on voit le noyau, on ne voit pas les jets de vapeur, mais cette comète, éclairée par le Soleil, pas très loin, perd effectivement de la vapeur qui sort. Elle sort par des espèces de cratères de sublimation, et voici la surface, ce noyau de cette comète, vu sous toutes les coutures. Alors, quand on regarde très très en détail la bord de cette comète, il est rehissé de tourelles et de pinacles qui font jusqu'à une centaine de mètres de haut. Et quand on voit ces tourelles et ces pinacles comme ça, ça ne peut pas faire penser, si on est un peu géologue, à ce qu'on appelle les pénitents. Et les pénitents, c'est ce qui se passe quand vous avez de la glace, en haute altitude, là on est au sommet du Kilimandjaro, sous l'équateur, quand le soleil tape fort. Le fond de l'air est froid, parce qu'on est à 6000 mètres d'altitude, regardez les gens qui sont tous en doudoune, il fait largement moins de zéro, le soleil tape fort, et la glace ne fond pas, elle se sublime. Et quand la glace se sublime, ça fait une espèce de relief très bizarre qu'on appelle des pénitents. Et quand on voit ça, on ne peut pas dire que ce qu'on voit à leur bord des comètes sont des pénitents géants. Parce qu'à chaque fois que la comète passe près du Soleil, elle se sublime et elle perd un petit peu de glace. Alors ça, c'est le comète Temple 1, Temple 1, qui était héroïne, malgré elle, du vrai Deep Impact. Le vrai Deep Impact, c'est que les Américains ont précipité un boulet de 500 kg ici. Et ce boulet a fait donc un nuage de gaz et de poussière que la sonde a analysé. La sonde était restée. Alors voici la comète, le boulet s'est posé là. Alors ça, c'est des fausses couleurs avec des études spectrales. Là où il y a des taches bleues, c'est de la glace vive qui est à l'affleurement. Là où c'est grisâtre, c'est de la glace très sale, recouverte de saloperies diverses et variées. Donc la glace vive, on la trouve au fond. En fait, une comète, ça veut dire un bloc de glace recouvert. Comme il y a la sublimation, les impuretés de la glace ne se subliment pas. Et progressivement, la couche de glace, c'est comme de la neige sale. Si vous fondez la neige sale, ben la surface devient de plus en plus sale à cause de tout ce qu'ils ne font pas qui reste. C'est pour ça que cette comète, il n'y a pas beaucoup de glace à l'affleurement. Alors voici un film, enfin des photos prises par le boulet qui s'est précipité sur la comète. Il y avait un boulet de 500 kg, ou 50 kg, je ne me rappelle plus combien. Je crois que c'est 50 plutôt. Enfin, un boulet qui arrive très vite. Le seul instrument scientifique du boulet, c'est une caméra qui a photographié au fur et à mesure qu'il s'approchait, donc il va tomber là. Il s'approche. Et puis après, boum, le voilà, pris par la sonde qui était restée à l'extérieur. Et vous avez donc l'explosion. Alors l'intérêt de tout ça, c'était d'analyser les poussières et la gaz qui s'échappe. Alors ce qui s'est échappé, c'est à peu près les deux tiers de gaz, de poussière et un tiers de gaz. Donc elle est vraiment tombée dans quelque chose de très sale. La surface, c'est de façon dominante de la poussière, qui sont des silicates et ou de la matière organique. Et puis il y a quand même un tiers d'eau, qui est surtout sous forme de vapeur. Et là, c'est une étude spectrale qui montre les trois principaux composés gazeux qu'on trouve dans le nuage de gaz. Il y a de la glace carbonique, il y a la liaison CH qui montre qu'il y a plein d'hydrocarbures et de molécules organiques dans la comète. Et puis il y a, et c'est le pic principal, toutes les raies de la vapeur d'eau. Une comète est bien principalement faite d'eau. Alors j'ai mis 139 diapos, il est temps de s'arrêter. Et on pourrait tout à fait continuer à discuter autour d'un verre. Et un verre, c'est forcément composé de 50 à 100% d'eau. 50 si c'est de l'agneau, 100% si c'est de l'eau. Et on pourrait surtout faire ça si on a gagné. Mais j'en sais rien. A-t-on gagné? Je ne sais pas. Voilà, j'ai fini. Je vous remercie de votre attention.